Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Avez-vous fait votre stock? Stock des bougies, bien sûr, à la maison, en prévision des coupures d'électricité à venir. Alors la question n'est pas du tout ironique, car nous y sommes. Une lettre adressée au préfet va partir là, incessamment sous peu, pour prévenir justement ces coupures. Mais comment en est-on arrivé là en France, s'il en est notre déclassement? Et puis du sabordage du nucléaire, ce sera l'un de nos thèmes ce midi. Et comme si cela ne suffisait pas, les grèves à la SNCF avec de multiples préavis, haro sur les syndicats, mais... Nous analyserons surtout la multiplicité des revendications partout, tout le temps, tout le monde revendique son bout de gras. Et puis un livre avec une question, qui en veut aux catholiques? Nous serons avec l'auteur et journaliste Marc Hainaut, passionnant ouvrage sur une identité chrétienne en danger ou alors on a honte de mettre en avant. Voilà pour le programme, mais tout d'abord c'est le journal, bonjour à vous Mickaël.
Bonjour Sonia, bonjour à tous et à la une de l'actualité. Vous le disiez, anticiper d'éventuelles coupures d'électricité, c'est l'objet de la circulaire que le gouvernement va adresser au préfet, des coupures programmées qui pourraient concerner 60% de la population. Mais Olivier Véran rassure, ce n'est pour le moment qu'un simple principe de précaution, une façon de se préparer à toutes les situations. Écoutez, le porte-parole du gouvernement, il était interrogé sur RMC.
On n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. On a même plutôt annoncé l'inverse pour le mois de décembre, puisque le mois de décembre sera un mois qui ne sera pas plus froid que les autres. Mais ce qu'on dit aux Français, c'est qu'en janvier, on ne sait pas encore quel sera l'état de l'hiver. Et que dans la situation où on aurait un hiver particulièrement froid, donc particulièrement coûteux en énergie, compte tenu des difficultés sur les centrales nucléaires, vous savez, avec un certain nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt, il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique et que comme il était exclu qu'on prenne le risque d'un blackout, dans ce cas-là, on prépare au niveau gouvernemental, avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les Français, tous les scénarios pour faire face à toutes les situations.
Grève à la SNCF, les vacances de Noël sont également menacées. Un premier mouvement des contrôleurs a lieu ce week-end. Conséquence, 6 trains sur 10 TGV et Intercités seront annulés entre vendredi et dimanche. D'autres perturbations sont prévues d'ici la fin de l'année, y compris à Noël. Une situation que déplore Alexis Corbière, mais qu'il faut avant tout, selon lui, essayer de comprendre. Le député LFI de Seine-Saint-Denis était l'invité de Romain Desarbres ce matin sur CNews.
La grève, c'est toujours un constat d'échec. Maintenant, c'est la faute à qui? Est-ce que dans ce pays, on est uniquement là pour commenter les conséquences négatives de ce que fait le gouvernement ou est-ce qu'on essaie d'en comprendre quelles en sont les racines? Moi, quand il y a des salariés qui disent, voilà, on est mal payé, on est en situation de sous-effectif, le service public est dégradé, qui sont méprisés par leur direction, qui disent au bout d'un moment, on est obligé d'arriver à la grève, je suis pas l'imbécile qui regarde le doigt quand on monte la lune, hein, j'essaie de comprendre. Et ce que je dis, c'est que je suis pour la défense du service public.
Grève aussi pour les biologistes libéraux. Si vous avez des analyses médicales à faire, plusieurs laboratoires sont fermés aujourd'hui et demain, toujours en conflit avec l'assurance maladie. Ils sont opposés au coup de rabot de 250 millions d'euros par an inscrit dans le budget de la Sécurité sociale pour 2023. Écoutez le porte-parole de l'Alliance de la biologie médicale.
On ressent une injustice énorme puisqu'on a été exemplaire pendant le Covid. On a testé, c'était des commandes de l'État, c'était un ordre de l'État. On a été sur le pont, on a travaillé 24 heures sur 24. Et là, le gouvernement veut nous baisser nos tarifs à hauteur de 250 millions d'euros. Mais en fait, c'est au moins 250 millions dès 2023, ce qui en fait revient à une baisse de 1,3 milliard d'euros en 4 ans, ce qui est impossible pour nous, on ne va pas survivre. Et donc, il y aura des fermetures d'au moins 400 laboratoires dans les territoires un petit peu désertiques. Il y aura des fermetures de laboratoires, au moins 400 laboratoires en France, ce qui est énorme. Il y aura également des tensions sur l'emploi, sur l'activité. On sera obligé également de diminuer nos investissements, donc moins d'innovation, moins de diagnostics, moins de thérapies ciblées par exemple.
Et puis des cabinets de médecins généralistes sont également fermés aujourd'hui. Ils réclament le passage du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Sachez que la moyenne européenne est à 45 euros. Phase de poule terminée pour les Bleus qui finissent premier du groupe D. Un très bon résultat pour l'équipe de France qui évite de peu l'Argentine et qui affrontera la Pologne en huitième de finale ce dimanche. Saïd Alabadi, vous êtes journaliste au service sport de CNews. Racontez-nous à quoi les Bleus doivent s'attendre pour cette fin de semaine.
Ce sera en effet France-Pologne dimanche en huitième de finale de cette Coupe du Monde de football. Battue par l'Argentine 2-0, cette équipe de Pologne termine donc deuxième de son groupe C devant le Mexique et l'Arabie Saoudite. Alors, cette équipe de Pologne semble abordable sur le papier, mais il faudra tout de même se méfier. Il y a le gardien Szczęsny qui a notamment arrêté un pénalty de Lionel Messi. Il y a également Robert Lewandowski, l'attaquant phare de cette équipe. Donc, les Bleus sont prévenus. Il faudra être rugueux, il faudra être sérieux contre cette équipe. Pourquoi pas ensuite passer cette huitième de finale pour envisager un quart de finale. Mais avant de penser au quart de finale, il faudra assurer, il faudra réaliser un meilleur match que celui d'hier contre la Tunisie. Alors certes, Didier Deschamps avait effectué 9 changements dans cette rencontre. Les Bleus ont subi une défaite 1-0. Pourtant, si c'est une défaite logique, Antoine Griezmann a pensé avoir égalisé en fin de rencontre, mais ce but avait été refusé et annulé par la VAR, une annulation contraire au règlement, et la Fédération française de football d'ailleurs a annoncé qu'elle allait déposer une réclamation auprès de la FIFA. En attendant d'obtenir gain de cause, les Bleus vont se concentrer sur cette préparation du huitième de finale contre les Polonais.
Merci Saïd, et c'est à vous Sonia pour Midi News.
On sait tout, en tous les cas sur le football. On va essayer de parler aussi d'autres actualités, même s'il y avait un match assez passionnant, hein, France-Tunisie, n'est-ce pas?
Mais
vous avez regardé?
Ah non, je n'ai pas regardé.
Ah, bientôt pour le regarder à la bougie peut-être.
Ah c'est vrai, oui. Si la télévision marche.
Ça fait plaisir. Olivier Véran a rassuré, donc il faut s'inquiéter et en parler.
Ah bon, vous doutez de la parole d'Olivier Véran?
Jamais, Paul Melun, ne me faites pas dire
sarcasme sur ce plateau.
Moi quand Olivier Véran parle, vous savez, c'est parole d'évangile Sonia. Hein.
Président de Souverain Demain, à vos côtés, Maître Maxime Thiébaud.
Bonjour Sonia.
Merci d'être là, bonjour à vous. Caroline Pilas nous accompagne, bonjour. Chroniqueuse à Sud Radio, Frédéric Durand qui est directeur du magazine. Bonjour. Bonjour à vous, l'inspiration politique. Donc, je vais montrer la une. Merci. Alors, sur les maires, et vraiment passionnant, j'ai eu le temps de lire juste avant le début de Midi News avec Christophe Guilluy, le géographe. Regardez ce qu'il dit. Alors, j'ai marqué la page, donc vous avez choisi vous-même hein, cette accroche. L'endroit où l'on a le plus vomi sur les classes populaires, c'est l'Occident, et c'est cette civilisation qui est en crise.
Tout à fait. C'est
passionnant, vraiment à retrouver. Je vous invite à le lire. Et puis on voit les images. Vous étiez très à l'aise avec les joueurs, voilà, les interviews dans un café, tranquillement. Ah. On voit Frédéric Durand, voilà. Et voilà. Il est formidable, hein, Christophe Guilluy.
Tout à fait.
Avec son livre, Les Dépossédés, c'est ça?
Voilà, il a sorti un nouveau livre. Il est lu d'ailleurs, et pas qu'en France.
Mais oui, mais ça a un rapport avec ce dont on va parler, parce que souvent, évidemment, ce sont ces dépossédés, ces classes populaires moyennes qui voient leur facture d'électricité flamber et qui ne peuvent pas, évidemment, y faire face. Alors, est-ce que c'est un signe de déclassement de notre pays? Parler aujourd'hui, mais je me suis dit en préparant cette émission, parler des risques de coupure d'électricité en France. Non mais c'est quand même. Mais est-ce qu'on se rend compte du débat qu'on va tenir?
Mais vous vous rappelez qu'il y avait on refusait cette nostalgie de la lampe à huile prétendument, c'est-à-dire que la Startup Nation nous expliquait que les nostalgiques de la lampe à huile, etc.
On en était les amis. Etc.
Et là, il y a une contradiction quand même qui est assez assez étonnante sur le fait que donc ce modernisme là, ce modernisme prétendu de ce néolibéralisme à tout va, etc. Où tout le monde doit être mobile, déraciné, etc. Le résultat de tout ça. C'est quoi? C'est la bougie. C'est donc vrai. On a quand même un problème entre la prétendue conception qu'a le gouvernement de la modernité et ce qui nous arrive dans la réalité. Et
pour tirer le raisonnement de Frédéric que je rejoins à 100%, en fait, on nous a vanté depuis plusieurs décennies la mondialisation, la technique comme nirvana sociétal et civilisationnel pour l'Occident. Et on se retrouve aujourd'hui, miracle, miracle, quelques décennies plus tard, par des coupures d'électricité. Donc la chose, disons, la plus basique et qui nous a été amenée ces dernières décennies et à la fois la plus élémentaire pour vivre dans une maison aujourd'hui contemporaine, on ne vit pas sans électricité, est en train de nous être sucrée parce qu'il y a eu des mauvais choix. J'imagine qu'on va parler du nucléaire, de notre souveraineté énergétique et de tout un tas de sujets sur lesquels nous n'avons pas été au rendez-vous, mais pas qu'en France. En France et dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest, notamment.
Vous allez tous réagir. Imaginez qu'il y a encore quelques temps, la France était reconnue comme un pays d'excellence pour la production d'électricité. Alors, les risques, qui ça peut concerner? C'est pas anodin, hein, 60% des Français qui pourraient être concernés ou menacés. Tout est résumé par Clémence Barbier.
Pas de blackout cet hiver, mais possiblement des coupures d'électricité. 60% de la population métropolitaine serait concernée. Les coupures de courant interviendraient entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Certaines structures devront s'adapter, comme les écoles susceptibles d'être délestées. Elles devront rester fermées le matin pour éviter d'être sans lumière, ni chauffage, ni alarme. Par précaution, les trains seront supprimés, les lignes de métro fermées. En ce qui concerne les urgences, il sera recommandé de privilégier le 112, le numéro d'urgence européen. Des sites sensibles seront toutefois épargnés. C'est le cas des hôpitaux, des gendarmeries, des casernes de pompiers ou encore des quelques 3800 patients à haut risque, dépendant d'un équipement médical à domicile branché sur le secteur. La Corse aussi n'est pas concernée. Reliée à l'Italie, elle dispose de sa propre production électrique. Dans la pratique, 40% de la population ne sera jamais délestée car prioritaire ou raccordée par chance à une ligne prioritaire. Pour savoir si vous serez concerné par ces coupures, l'information sera disponible sur le site d'EcoWatt 3 jours à l'avance.
Alors on se répète, mais vous vous rendez compte, Maxime, on a fermé Fessenheim, on vient de rouvrir une centrale à charbon. La moitié de notre parc nucléaire, mais ça c'était aussi une responsabilité qui n'était pas suffisamment justement au point. C'est un sabordage français.
C'est le sabordage de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Les responsables aujourd'hui, c'est ces deux personnages qui ont littéralement trahi la France. En 2014, quand Emmanuel Macron a vendu Alstom à General Electric, vous aviez une partie de l'opposition qui disait « c'est un scandale, c'est la souveraineté française, c'est la souveraineté énergétique qui est en train d'être complètement dilapidée ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit non, vous êtes des passéistes, la mondialisation va vous amener l'électricité, la mondialisation c'est de se faire confiance les uns les autres, la mondialisation c'est trahir les intérêts français pour les faire rentrer dans le gros package du marché international, et on voit la conséquence aujourd'hui. La conséquence c'est qu'on va avoir des zones de délestage, mais ça on l'avait annoncé dès qu'il y a eu la guerre en Ukraine au mois de février, et la deuxième conséquence c'est qu'il y a des Français qui vont mourir de froid, parce que la crise énergétique aura des conséquences sur la vie des Français, et vous avez des Français qui vont mourir de froid, et vous allez avoir des Français qui vont mourir à cause de la pollution due au charbon.
Et puis la santé,
ce qu'on oublie de dire, c'est que le nucléaire, quand je vois tous les ayatollahs et les bisounours écologistes qui viennent nous dire que le nucléaire...
Hein,
oui, moi ça me rend dingue, parce que c'est 10 ans de politique. Avant d'arrêter la politique pour devenir avocat, je me suis battu auprès de Nicolas Dupont-Aignan, auprès de Florian Philippot, auprès de Marine Le Pen, sur le fait de dire que la souveraineté énergétique de la France devait être garantie, parce que ce qu'on va connaître en février allait arriver. Et on nous regardait en nous disant, vous êtes des timbrés, vous n'avez rien compris au changement, vous n'avez rien compris à la mondialisation, vous vivez dans le passé. Et on est en train de le vivre aujourd'hui. Et on disait déjà à l'époque, je me souviens des élections régionales de 2015, où je disais, la pollution à Paris, elle est due aux centrales charbon allemandes. Et là, on est en train de rouvrir des centrales charbon en France, alors qu'on devrait ouvrir du nouveau nucléaire. On a la fission nucléaire, où on aurait dû investir depuis des années, on a complètement abandonné. Je suis désolé,
Oui, c'est terrible. Là, c'est un tableau dévastateur.
Il faut que les responsables payent.
Mais réaliste. Caroline
oui,
Pilas.
Je souscris à vos propos et à votre indignation, Maxime. Bien évidemment que les gouvernants actuels et passés sont responsables de ce que nous sommes en train de vivre, de ce que nous allons vivre dans les prochains mois.
C'est exonère, hein, de
mais
leur
complètement. Mais les mesures, les décisions qu'ils ont prises nous retombent dessus. Et c'est scandaleux, en fait, d'en arriver là. Oui, ce pays est en déclin. Sur le secteur du nucléaire aussi. Vous le rappeliez, M. Hollande a fermé Fessenheim. Et qui s'en est réjoui lors du premier quinquennat Macron? M. Macron, Elisabeth Borne et M. Édouard Philippe. Il y a un moment donné, j'aimerais aussi entendre les écologistes, parce qu'ils vont devoir se chauffer. On les entend pas beaucoup sur cette question. On les entend beaucoup sur la question néo-féministe, du wokisme, mais sur l'écologie, à proprement parler, rarement. Parce que devoir rouvrir une centrale à charbon en Moselle, pardonnez-moi, mais alors, si ce n'est pas un recul, une régression.
D'accord, mais comment, je veux dire, la question n'est pas de pointer pour pointer les responsabilités, pourquoi personne n'assume? Il y a eu des décisions, on sait ce qu'a négocié François Hollande avec les Verts, on sait qu'Emmanuel Macron a poursuivi cela. Pourquoi quand on pose, moi j'ai posé la question ce matin à Éric Woerth, parce qu'il est maintenant chez Renaissance, et écoutons-le sur, justement sur les coupures d'électricité.
Est-ce que vous avez préparé votre stock à la maison? Mon stock de quoi ?
De bougies.
Mon stock de bougies.
Vous avez entendu notre journal avec attention.
Peut-être pas encore, mais on pouvait. Il y a des gens qui stockent à peu près tout, des pâtes, de la moutarde. Non, j'ai pas. Je crois pas. Donc, on a quelques bougies, bien sûr, mais il faudra peut-être qu'on en achète un peu plus. Ouais. On en est à une raréfaction de la ressource électrique, du gaz, bien sûr. Mais on en est là dans la plupart des pays du monde, en dehors des États-Unis, où on continue à avoir une filière d'excellence nucléaire. On va construire de nouvelles centrales. Maintenant, il y a une peu près 50% des centrales, un peu moins, qui sont à l'arrêt pour des raisons pour des problèmes techniques qui doivent être réglés. On attend d'EDF le calendrier définitif de remise en route de ces centrales.
Mais sinon, tout va bien. On reste un pays d'excellence nucléaire. Oui, on ne le remarque pas tellement.
Le patron d'EDF a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, que lui, lorsqu'il avait été embauché, ce n'était pas pour construire une nouvelle centrale nucléaire, mais c'était pour passer à autre chose et donc pour non pas former à ces métiers-là, mais au contraire pour licencier et se débarrasser de ça. Donc, je pense que de ce point de vue, la messe est dite et les orientations qui avaient été données à EDF à l'époque étaient extrêmement claires. Ce qui est terrible aujourd'hui, à mon avis, c'est qu'on nous tient des discours infantilisants, terriblement infantilisant, en nous expliquant qu'il faut baisser ceci, cela. Chose que, d'ailleurs, tout le monde fait déjà, parce que tout le monde est soucieux de ça.
Mais quand on ne vit pas, la vraie... Voilà. Je ne sais pas comment ils vivent.
On nous infantilise, alors que ce sont ceux-là même qui nous infantilisent, qui se sont comportés comme de parfaits enfants béats devant la mondialisation. C'est-à-dire que ce sont eux les enfants, il faut le dire haut et fort, eux se sont comportés comme des enfants où ils voyaient briller cette soi-disant nouvelle société mondialisée qui allait pouvoir, on allait pouvoir se passer d'à peu près tout ce qui était matériel pour passer à de l'immatériel. Et ceux-là même viennent maintenant donner le leçon. Il y a quelque chose d'absolument...
Et puis, il y a une question quand même, puisqu'on fait le suivi un peu des débats et des sujets qui sont lancés. Il y avait la question du découplage du prix de l'électricité et du gaz. Et le gouvernement avait dit, non, mais c'est pas normal. Oui. On ne peut pas continuer comme ça. Vous allez voir ce que vous allez voir. On va s'installer à Bruxelles et avec nos petits bras, on va sortir du marché d'électricité. Il n'y a plus de nouvelles.
Pourquoi ce modèle-là?
Alors que l'Espagne et le Portugal...
Pourquoi ce modèle-là a été mis en place? Et pourquoi l'avons-nous accepté? Pour des raisons tout simplement spéculatives pour le marché. Et pour certains, sur le marché, pas pour le bien des peuples.
Idéologique,
mais surtout de rentabilité pour certains. Parce que l'idéologie, si ça rapporte à personne, on l'abandonne très vite. Mais là, ça rapporte beaucoup à certains. Par voie de conséquence, on a décidé de ça, donc coupler sur le gaz et donc faire exploser les factures
sur le marché. C'est la folie, on marche sur la tête et alors plus personne n'en parle. C'était bien sûr, vous allez voir ce qu'on va faire. À Bruxelles, on va y aller, on va leur dire c'est pas possible, on va faire un sit-in, on va plus bouger. Et là...
Et parce que c'est un modèle qui est remis
en cause. Parce que c'est des crocodiles, une grande gueule et des petits bras. C'est-à-dire que toute la journée, ils viennent nous raconter...
Je vais la retenir, celle-là.
Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que toute la journée, ils sont là à dire, on va sauver la France, on va sauver la France. Mais comme disait Einstein, on ne peut pas demander aux responsables des maux de venir les résoudre. Bon, donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait changer cette classe politique qui a échoué. Qui a littéralement échoué. Elle a échoué avec le passage de François Hollande. À partir du moment où François Hollande est arrivé et qu'il a commencé à travailler...
C'est un peu avant.
Je sais qu'il y a traité de Lisbonne à Sarkozy, mais le vrai passage à l'arme...
Sur le nucléaire, Nicolas Sarkozy, là, il a été très clair.
Ah oui, on a revu les images, d'ailleurs.
On a eu les images du débat à François Hollande, Nicolas Sarkozy.
On peut lui reprocher beaucoup de choses à Nicolas Sarkozy, mais pas du tout.
Regardez, alors là, c'est très intéressant, parce que quand on dit la bougie, vraiment, c'est pas ironique. Regardez les préconisations. Alors, c'est la CICAP. En fait, c'est elle qui fournit l'électricité, en particulier dans le Loiret. Regardez ce qui a été... regardez, c'est assez clair, hein. Pensez à vous munir d'une pile électrique, lampe torche et ou bougie.
Moi, je vis à Orléans.
On en est là. Et les torches aussi, le conseil des torches.
Je crois qu'il faut qu'on se prépare parce qu'on va avoir beaucoup de recommandations un peu infantilisantes et de la pédagogie, quand même, à dire les macronistes sur cette histoire de coupure, comme on en a eu d'ailleurs pendant des mois, des années avec le Covid.
Mais Paul, quand vous expliquez que certains sont réceptifs et même demandeurs de ça, je ne dis pas les Français, je ne les sensibilise pas, mais une partie... Les gens se disent oui, mais oui, ils ont raison. Il faut si Olivier Véran nous a dit qu'il faut décaler l'allumage des plaques échauffantes électriques,
Moi, je suis pas de ceux qui reprochent à certains de ces Français. Il faut bien le dire, il y a des Français qui sont en attente de mesures pédagogiques et d'infantilisation. Je ne leur jette pas la pierre. La seule chose que je peux dire, et ce que je peux dire à ces Français-là, si certains d'entre eux nous écoutent, c'est que ce n'est pas le rôle de l'État. Le citoyen éclairé, il doit faire son chemin.
C'est le cas de le dire.
Et
là,
si vous voulez, oui, en plus éclairé, j'ai pas voulu faire la bougie.
Bonne punchline. Bien.
Amener à la bougie avec de la cire et des allumettes, mais éclairé quand même, doit faire son chemin avec son esprit critique.
Non, mais qui c'est qui est d'accord avec ça?
Acteur, c'est un citoyen, c'est pas un enfant auquel on fait la leçon, la morale. Et c'est pour ça que je me désole vraiment. vraiment de ce mouvement de fond de la société qui va au-delà là, du sujet de l'électricité, qui va sur le sujet sanitaire, qui va sur le sujet du déplacement, de la limitation du déplacement, de la surveillance de nos faits et gestes via les nouvelles technologies. Nous sommes dans une société qui va sur une pente, je trouve, très dangereuse d'infantilisation des populations, dans lesquelles on les met sous une tutelle morale, politique, intellectuelle, et où on les prive, on les dénie de leur...
C'est la délation, après.
Et la délation fait
partie. Moi, je ne crois pas que les gens... Enfin, je ne crois pas à ça, en ce sens que je ne crois pas que les gens attendent qu'on leur donne des messages...
Pendant le Covid, d'ailleurs, c'est pas fini.
Parce qu'il y avait une peur durant la Covid aussi, qui était irrationnelle.
Ceux qui pensent ça, ceux qui trouvent ça bien, c'est qu'eux se sentent parfaitement conscients de tout ça, mais pensent qu'il y a des classes populaires bêtes qu'il faut éduquer. Voilà la réalité. Mais ceux-là même qui savent qu'il faut baisser le chauffage, qu'il faut faire des économies, ils le savent. Ils n'ont pas besoin qu'on le leur dise.
Mais pourquoi ils n'ont pas besoin d'aller plus loin?
Parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Bah, voilà, ils n'ont pas les moyens. Mais oui, comment on peut ne pas se rendre compte de ça?
Il y a un cynisme atroce, à mon avis.
Et puis, avec les factures d'alimentation qui ne cessent d'augmenter, plus évidemment les factures énergétiques, vestimentaires, tout ce que vous voulez, il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer. La majorité d'entre nous sont bien obligés de baisser, de couper. On n'attendait pas que M. Macron, la majorité, soit nos nounous. Je n'attends pas du gouvernement que ce soit mon papa et ma maman. Je sais quoi faire. Oui.
Mais quand il y a de telles conséquences, je crois qu'il y a une commission d'enquête en ce moment à l'Assemblée sur le nucléaire qui est menée par Olivier Maralex. Mais quand c'est qu'on ne... Je sais pas, on ne retrace pas davantage le fil quand même des responsabilités sur ça.
Moi, ça me rend dingue. Alors, Paul est un grand gaulliste. Mais quand on regarde l'histoire de France, on se dit... Mais c'est pas possible. Comment ils ont pu échouer? Le programme général de Gaulle en 58, c'était de construire l'indépendance de la France sur l'énergie. On avait tout. Ils ont tout dilapidé. Tous les boomers, là, comme Monsieur Woerst, dans la continuité de ces gens-là, ils ont tout dilapidé. Et ils viennent sur les plateaux télé venir nous faire des leçons de morale. Mais sincèrement, un petit peu d'honneur, quoi. À une certaine époque, certains se seraient permis même de sortir de la vie politique. Enfin, je comprends pas. Et on a eu des périodes dans l'histoire de France, vous prenez la Troisième République, les grands scandales de la Légion d'honneur, le scandale de Panama, Clémenceau. À un moment, on partait avec panache. Quand on avait échoué, on disait, j'arrête la vie politique, je pars. Et là, ils cherchent à se raccrocher aux branches de leurs propres excuses. C'est à proprement scandaleux, ça dilapide complètement la confiance que les Français doivent avoir envers leur politique.
Alors, il y a un autre sujet dont on verra le reportage en quelques instants, c'est alors que les gestionnaires justement du réseau électrique envisagent donc de procéder à ce qu'on appelle à des délestages. Ce sera a priori au mois de janvier. Les opérateurs télécoms avertissent que leurs réseaux mobiles en feront nécessairement les frais. Il y aura des conséquences. Alors tout le monde s'inquiète et alerte sur les communications d'urgence également. C'est-à-dire, on en est là aussi. C'est quand même incroyable de se poser ce genre.
Ça
on imagine quand même qu'on va trouver une solution.
Vous prenez la gendarmerie de Saint-Germain-du-Plain. Vous prenez la gendarmerie de Montpont en Bresse. Je peux vous dire qu'elles seront coupées, hein. S'il y a une zone de délestage en Bresse, les gendarmeries ne vont pas fonctionner. On est en train de nous mentir. Moi, je ne crois pas un instant qu'on sera en capacité de garantir à ce que les services publics régaliens fonctionnent si on a des zones de délestage. Je ne vois pas comment ils ne vont pas installer un transfo derrière chaque gendarmerie. Ou alors, il faut qu'ils nous l'annoncent rapidement. Moi, c'est une inquiétude. Et je pense que le gouvernement et le ministre de l'Intérieur doivent très rapidement répondre à ces questions-là. Comment on va être en capacité d'engager des forces de sécurité dans les zones délestées?
Enfin, j'espère qu'ils ont anticipé ce genre de situation. Ça fait des mois qu'ils nous parlent des risques.
Eh, Sonia, on a vu sur les vaccins, on a vu sur la crise sanitaire. Ils anticipent lorsqu'ils ont le mur dans le visage. Donc j'ai hâte de voir quand même.
Mais ça, c'est nous qui allons la voir sur ces appels-là.
Une fois de plus, en tant que citoyen, on est obligé de subir là justement les mauvaises décisions dont vous parlez tous depuis tant d'années. Et c'est ça qui est scandaleux et qui nous indigne, parce qu'on n'est pas responsable. Nous, on paye nos factures et on attend d'avoir le service qui va avec. Puis alors j'en ai marre qu'on parle aussi sans arrêt de la guerre en Ukraine. Elle a bon dos la guerre en Ukraine aussi sur ces questions. Comme la Covid, quand on est sorti de cette période, avec toutes les augmentations dont on a pris conscience. Et à un moment donné, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités, même si ça ne changera pas grand-chose.
Le problème est structurel, c'est pas le problème de...
Effectivement,
On a pris... Allez-y,
non, juste, il y a des choix désastreux qui ont été faits, on l'a rappelé, qu'il faudrait non seulement... qui aboutirait non seulement au fait que la France n'aurait pas ses problèmes aujourd'hui, mais en plus pourrait voir repartir son économie parce qu'elle serait championne sur ces questions-là. Mais le pire de ce qui va se produire, c'est que comme on va avoir ces problèmes-là, ça va être la faute des Français. Ça va être la faute des Français qui se comportent mal. Parce que au-delà du procès qu'on peut faire à ceux qui effectivement n'ont pas fait les bons choix politiques, demain, ça finira par être la faute des Français, notamment des classes populaires qui ne savent pas utiliser correctement leur taxe.
Non, je ne suis pas sûr de ça.
Vous verrez qu'il y aura un passage où on dira, et on va dresser les Français les uns contre les autres en disant, mais vous voyez qu'il y a des gens qui se comportent pas bien, etc., etc. Moi, ça m'hallucine parce que en termes de, comment dire, d'énergie, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, on s'est fabriqué une machine à laver, on s'est parfaitement fabriqué une machine à laver qui dure toute la vie. Mais on décide de fabriquer des machines à laver qui durent 4 ans, 5 ans pour qu'on les change sans arrêt. Et à nous,
l'obsolescence programmée.
Exactement. Et à nous, on nous demande d'être parfaitement vertueux quand cette société-là produit un gâchis immense. Donc il va falloir regarder les choses un peu macro et arrêter de venir individuellement nous embêter chacun de nous.
Mais comme en toute chose, nous savons, cher Frédéric, que dans cette époque, il est plus facile de culpabiliser le consommateur du lave-vaisselle ou la personne qui allume sa lumière de chevet le soir plutôt que les grands groupes capitalistiques ou les mauvais choix de nos décideurs. Donc il y a une forme effectivement de paresse intellectuelle ou de couardise de nos dirigeants qui vont venir accuser un certain nombre de gens, à commencer par les Français, en leur disant, mais regardez, vous êtes mal comporté, c'est la raison pour laquelle nous en sommes là.
Vous passez devant un ministère, je ne dis pas tous les ministères, mais je suis passé récemment devant le Quai d'Orsay. C'est vrai que c'est une vitrine aussi de la France, etc. Mais vous voyez tous les, de l'extérieur, tous les énormes lampadaires allumés, etc. Et puis vous rentrez, on vous dit, pas tout de suite, hein, la plaque chauffante.
Mais dans cette période-là, le poids des symboles va être très très fort. Et c'est comme quand il y avait la canicule et qu'on voyait, vous savez, tous les gros voitures avec chauffeurs qui fumaient de climatisation avec des ministres à l'intérieur. Ce genre d'image, aujourd'hui, ça devient
absolument... Le mondial de Flora, aujourd'hui, excusez-moi.
C'est le fameux « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ».
Et ça va se concrétiser. Parce que vous allez avoir une rupture du principe d'égalité. Vous avez les grandes métropoles, elles ne vont pas être coupées d'électricité. Donc les gens qui habiteront Paris, Lyon, Marseille auront de l'électricité. Mais nos zones rurales, nos zones périurbaines, elles vont être concernées. C'est-à-dire 80% des gens qui regardent CNews vont avoir des coupures de courant. Et c'est ça qui est quand même scandaleux. C'est-à-dire que le principe d'égalité qui est dans notre socle constitutionnel va être rompu à cause de l'échelle des personnes qui ne seront même pas concernées par les zones de délestage.
Mais pas du tout, c'est pas concerné. Mais moi, chaque matin, on pose les questions, mais pas du tout. Ils vous disent, mais regardez, maintenant, on a pris le bon virage. Ça y est, on a investi dans le nucléaire. Mais, et toutes ces années de perdu,
là, pourquoi la réalité, pourquoi en fait, des Français Non, je pense qu'ils sont hors sol. Et là où je vous donne raison, pardonnez-moi, Sonia, vous avez raison sur l'hypocrisie, sur le dogmatisme de beaucoup d'écolos. Il se trouve que j'en connais... qui sont très proches de moi. Ces gens-là ne veulent pas qu'on dise qu'ils partent très loin à l'étranger, parce qu'ils ne veulent pas être stigmatisés si on apprend qu'ils prennent l'avion. Mais c'est quand même hyper...
Mais je vais vous dire, parfois on n'a pas le choix. Pourquoi ? Parce que dans quelques instants, vous allez voir que prendre le train, là, demain, ces jours-ci, ou pendant les vacances, là, de décembre, ça va être compliqué. Alors j'ai envie qu'on aille plus loin, parce que le ras-le-bol, on va en parler. Peut-être que certains d'entre vous... Qui pourra défendre ici les syndicats qui ont déposé des multiples préavis, à part Frédéric Durand ?
Moi, je serais plutôt sur une ligne un peu Durand. On va pas aller. Oui, j'adopte la ligne Durand.
Ouh là là.
Vous la connaissez pas encore.
Ouh là là.
Non, je plaisante. Non, mais enfin, on peut pas non plus jeter l'opprobre sur les syndicats sans savoir quelles sont les revendications.
On est d'accord. Puis on ira plus loin. Signe d'un pays qui ne cesse de se morceler. Chacun défend son bout de gras, ses positions, ses revendications. Jusqu'où ? À tout de suite pour en parler. On va vous faire aimer le train, qu'il disait. Peut-être pas les syndicats. Enfin, on va en parler. On va en parler. Non, il faut être mesuré.
Ah, impartialité.
Ah.
Travaillons mieux, c'est notre marque.
Mesure, nuance, impartialité.
Vous avez décrit Audrey Berthaud. C'est justement les titres. C'est News Info.
L'Assemblée nationale vote à l'unanimité pour augmenter le montant des retraites des agriculteurs à partir de 2026. Ce texte du député Les Républicains, Julien Dive, prévoit de calculer la retraite de base sur les seules 25 meilleures années de revenus des chefs d'exploitation agricole et non plus sur toute la carrière. Un mini contrôle technique pour les deux roues à moins de 50 euros, c'est l'option envisagée par le gouvernement pour juin prochain. Il s'agit d'un contrôle technique simplifié avec moins de points de contrôle par rapport à celui des voitures. Rien n'est encore stabilisé, mais des discussions sont en cours. Et puis en Espagne, une lettre piégée a été adressée la semaine dernière au Premier ministre Pedro Sanchez. Une lettre similaire à celle ayant explosé mercredi à l'ambassade d'Ukraine à Madrid. La justice espagnole a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire portant sur des faits présumés de terrorisme.
Haro sur les syndicats à la SNCF, UNSA, Sud, CFDT, grève des contrôleurs donc vendredi à dimanche et pendant les fêtes aussi une menace de grève avec une bonne épée de Damoclès sur nos têtes. Alors qui pour défendre les syndicats ? Parce que moi j'ai envie d'avoir un argument, alors autre que les salaires, parce que j'ai appris qu'il y a des négociations qui sont en cours en plus.
Qui pour défendre les salariés ?
Oui. C'est ça que vous voulez dire.
Oui, pardonnez-moi. Oui. Ah, voilà. Souvent syndiqués.
Non, non, ils ne sont pas tous syndiqués. C'est les salariés qui, effectivement. D'ailleurs, j'ai remarqué que là, en l'espèce, c'était Sud qui appelait la CFDT, qui est plutôt un syndicat réformiste, qui n'est pas radical. La CGT n'appelle pas, apparemment. Donc, moi, je ne connais pas exactement la situation. Donc, difficile de se prononcer sur
le
fond.
Mais vous prenez le train.
Oui, je prends le train. Et d'ailleurs, ce week-end, j'ai besoin de le prendre pour le boulot et je risque de faire partie des gens qui vont être...
Et vous n'allez pas râler ?
Gêné. Mais je râlerai peut-être, mais je suis capable à la fois de comprendre et de râler, vous savez. Donc, il n'y a pas de...
Il est formidable. C'est un citoyen modèle. C'est un citoyen modèle, ce garçon.
Non, mais je peux juste dire... Je peux juste dire et regarder ma situation personnelle et dire c'est très embêtant pour moi et je les déteste de faire ça. Ou je peux dire mais pourquoi le font-ils et essayer de comprendre. C'est tout. Après, on est tous soumis et c'est embêtant pour tout le monde. Cependant, on parlait des classes moyennes tout à l'heure qui décrochaient, notamment les contrôleurs, puisque là, il s'agit plus précisément des contrôleurs, d'ailleurs d'un collectif de contrôleurs auquel se sont ensuite raccrochés certains syndicats. Donc c'est parti d'un collectif qui n'était pas forcément un syndicat à la base.
Je ne sais pas si vous faites un bon avocat de ces contrôleurs. On va continuer à en parler. Ça m'intéresse aussi de voir leurs conditions. Enfin, on est jeudi. Bon, c'est demain, oui. Vendredi. Oui, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, il n'y a même pas... Et non, on peut comprendre, mais même prévenir un petit peu...
Ah ben les préavis ont été déposés, a priori, puisque c'est une obligation. Hein,
donc, effectivement, après, vous avez raison, 24 heures, c'est suffisant pour s'organiser.
Non, mais on pourrait faire des préavis plus longs, simplement. Après, on dirait simplement, mais il y a eu des négociations, ils font une grève, etc. Donc, vous voyez bien qu'il y a aussi une
grève qui
dérange réalité.
Ça, c'est plus une grève.
Bravo. Mais qui avait dit que dans ce pays, c'était Nicolas Sarkozy, non ? Vous vous souvenez pas de cette phrase ?
Oui, il avait dit que maintenant il y avait des grèves et qu'on ne les voyait même plus.
On les voit, on les sent.
Des fois, on les voit, on les sent.
Regardez le contexte, comment ça a été annoncé. Alors évidemment, la colère des usagers, tout cela est résumé par Solène Boulan et Jules Bédo.
Avec 4 trains sur 10 en circulation, le week-end sera perturbé sur les lignes de la SNCF en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs. Parmi les lignes les plus impactées, le TGV Atlantique avec seulement un train sur 4, et un train sur 4 également sur le Ouigo.
C'est vrai que quand il y a les grèves, c'est embêtant parce qu'on doit tout revoir et parfois les covoiturages, c'est peut-être pas possible en fait.
Il faut bien qu'ils fassent grève quand même. Bah oui, parce que s'ils ont à revendiquer des choses, c'est le seul moyen.
Le problème, c'est que je comprends leurs revendications, mais à chaque fois, c'est nous, le citoyen, qui payons nos impôts, qui travaillons, qui sommes pris en otage. Et on a nous aussi des galères et nous, on ne peut pas faire grève.
Un second préavis de grève a été annoncé, d'abord du 23 au 26 décembre, puis du 30 au 2 janvier.
C'est toujours embêtant d'être pris en otage pour Noël parce que ça arrive régulièrement et c'est vrai que c'est fatigant.
Tous les ans, à la même période, ils font grève et clairement, ils nous emmerdent. Est-ce que leurs conditions de travail justifient à tel point de faire grève ? Je ne sais pas.
Les négociations annuelles obligatoires doivent s'engager le 7 décembre prochain entre la direction et les syndicats. Elles seront décisives concernant l'organisation des fêtes de fin d'année.
Il y en a qui prennent moins de pincettes que vous en plateau, pour dire ce qu'ils pensent. Parce que les gens, il faut arrêter de les emmerder.
C'est un verbe présidentiel.
Ah,
donc
je
l'utiliserai aussi. Je dis sincèrement, il m'emmerde. Il faut être honnête. Il y a un moment, on veut aussi profiter de nos familles. Les fêtes de Noël vont arriver. Je pense qu'il y a des moments qui sont un peu sacralisés et pendant lesquels on ne vient pas emmerder les Français. Et c'est exactement ce moment-là. Je peux tout à fait comprendre les revendications. Mais à un moment, les belles grèves des années 30, c'était des grèves collectives et nationales. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une certaine fraternité et les Français rejoignaient cette idée de grève. Là, ça fait un petit peu égoïste quand même.
Je voudrais juste dire une chose, c'est que la SNCF, qui était un grand service public, a été divisée en 6 sociétés commerciales. On a fait quelque chose, comme on a fait d'ailleurs avec le nucléaire, on fait quelque chose de catastrophique aujourd'hui avec la SNCF. Ça explique aussi le fait que les contrôleurs se sentent de moins en moins respectés parce qu'ils se sentent de moins en moins participer à une institution. Ils ont un travail qui n'est pas facile dans les trains. Moi, je prends très souvent le train et je peux vous dire que je ne voudrais pas faire un contrôleur aujourd'hui. Aussi...
Sur le non-respect aussi.
Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. J'ai commencé par ça. C'est-à-dire, ils ne sont pas respectés et on a voulu faire une fois de plus, selon le modèle de la mondialisation, de cette entreprise publique forte. Ah oui.
D'accord. Combien ça coûte la SNCF pour le contribuable ? Combien ça coûte à peu près la SNCF pour le contribuable ?
Elle est souvent renflouée par le contribuable.
Oui, mais là, en 2021, je crois que c'est, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est autour de 15 ou 20 milliards en 2021. Alors, je me méfie quand même d'une chose. Quand j'ai dit les préavis, quand est-ce qu'ils sont déposés, je me méfie parce que parfois, entre direction et syndicats, la direction peut un petit peu mettre sous le pied et dire regardez, préavis de surprise. Oui, bon, oui, voilà. Oui. Non, mais après, oui, on connaît aussi, la bête aussi, hein, voilà. Donc je me méfie.
Oui,
je
veux il y a aussi un vrai enjeu sur les négociations. Elles vont avoir lieu, je crois, dans quelques jours. Oui. Enfin, ce serait bien qu'elles aient lieu très, très vite parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est un peu le même débat qu'il y avait eu sur les raffineries et sur Total. C'est-à-dire qu'on jette l'opprobre sur les syndicats et sur les travailleurs qui se mobilisent. Moi, je veux bien. Mais il faut aussi réfléchir à la raison pour laquelle ils se mobilisent et à la raison pour laquelle des négociations n'ont pas abouti. Vous voyez, par exemple, il y a des pays comme l'Allemagne au hasard, dans lesquels la négociation et la fibre de négociation, elle n'est pas seulement meilleure du côté des syndicats, elle est aussi meilleure du côté du patronat. Et oui. En France, on a un patronat qui est aussi pas mal dans la confrontation vis-à-vis des salariés. Donc on aurait peut-être intérêt à ce que notre patronat soit davantage dans la négociation avec les syndicalistes. D'accord. Après, un deuxième petit élément, effectivement, sur les travailleurs du rail en l'espèce, ce n'est pas les travailleurs de ce pays qui ont les conditions de travail les plus terribles. Les conditions de travail les plus terribles aujourd'hui, c'est les métiers de la ubérisation. C'est les métiers dans lesquels on ne peut pas se syndiquer, dans lesquels on ne peut pas s'organiser, se coaliser. Et si les gens de la SNCF ont de si bonnes conditions de travail, c'est précisément parce que depuis plusieurs décennies, ils y veillent au grain et que leurs syndicats sont extrêmement performants, qu'il y a un bon taux de syndicalisation, etc. Bon. Etc.
Donc, en gros, c'est des revendications corporatives qui pourrissent la vie des Français.
Oui, mais reconnaissez-vous. Ah,
corporatives.
C'est
bizarre parce que quand on parle de prise d'otage, on parle
non.
de.
Ah non, je n'aime pas ce mot.
Terme. Aussi, je
oui, je sais, mais.
On parle de prise d'otage, on parle de grogne des syndicats. Le grogne, c'est attribué un animal, normalement, c'est un animal qui grogne, un être humain ne grogne pas. Mais il y a toute une littérature comme ça, tout un registre autour de ça que je trouve assez savoureux. Sans jamais se poser la question, d'ailleurs, de oui, ok, il nous emmerde pour aller vite, ça nous emmerde la vie, d'accord.
C'est normal.
Mais tout à fait. Mais sans se poser la question de l'autre côté.
Mais les négociations salariales vont commencer. Vous faites des grèves préventives dans la ville.
Non, mais je vous disais tout à l'heure que la
CGT. Jamais vu ça. Attendez de voir ce que vous allez obtenir.
Vous disiez tout à l'heure que la CGT n'était a priori pas partie prenante. Il doit y avoir des raisons pour lesquelles elle n'est pas partie prenante et qu'elle préfère attendre justement le moment de la négociation. Voilà, sans doute, y a-t-il des choses.
Non, mais c'est de la négociation. Reconnaissant que faire une grève lorsque ça n'impacte pas la majorité des Français, ça ne sert à rien, ça n'a pas lieu d'être. Donc joyeux Noël et bonne année. Encore, vive la France. On sait très bien. Que s'il n'y a pas une grève à la SNCF, à la RATP, et qui est prévue également, si je ne dis pas de bêtises, dans l'aérien à partir du 22 décembre, ça n'est plus la France à ces périodes de vacances. Mais en tant qu'usager, avec la hausse des billets de train, vous trouvez que c'est normal ? Je peux comprendre les revendications salariales, l'incivilité que vivent beaucoup de conducteurs. Très bien, mais qu'ils aillent faire grève devant leur direction et qu'ils arrêtent de prendre les Français pour des lapins de 6 semaines sur ces questions. Parce que malheureusement, c'est chaque année la même chose. On a l'impression que c'est l'Arlésienne. Sauf que quand vous avez envie d'aller voir vos familles, vos amis, tout simplement vivre à cette période, eh ben, vous subissez une fois de plus les grèves.
La dégradation du service à la SNCF, elle n'est pas du fait des syndicalistes et des travailleurs.
Oui, et puis les tarifs, d'un sous-investissement chronique parfois de l'État. Absolument. Et pendant ce temps, M. Macron nous parle des RER partout en province, un RER pour tous.
Vous vous rappelez du succès incroyable des bus Macron ou pas ? Non, vous ne vous rappelez pas puisqu'ils ont disparu de la circulation. Voilà comment... la vérité.
Vous avez du fiel, vous êtes ironique.
Je n'ai pas de fiel, je me souviens très bien qu'on devait prétendument gagner une mobilité extraordinairement moderne à l'époque avec les bus Macron, c'est-à-dire avec des bus...
C'était pas moderne du tout.
Au lieu de... Parce qu'il y a une vraie nécessité en termes de...
dit par Christophe Guilluy, voilà, les métropoles françaises à bout de souffle, en fait, on a poussé ces classes populaires et ces classes on les a sortis de ces métropoles, on est très contents, et maintenant, aujourd'hui, on va vous faire un RER pour tous, qui est un contre-modèle vu ce qu'on vit en Île-de-France.
Mais d'ailleurs, il fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a besoin de petites lignes justement qui.
On a besoin de retrouver les chemins de fer de 1914.
Mais ça, c'est l'obsession métropolitaine, mondialisation, métropolisation sont les deux volets d'une même croyance au libre marché mondialisé. Et à partir de là, quand vous avez ces croyances-là, vous organisez le pays en fonction de ces croyances.
Le syndicaliste Fabien Villedieu était chez Pascal Praud ce matin. Ça m'intéresse parce qu'il est venu quand même défendre dans une arène qui ne lui était pas forcément acquise. Son bout de gras, oui, en tous les cas, sa revendication. Écoutez-le sur ses arguments, vous allez me dire ce qu'il en pense. Lui, il fait partie de Sudrail.
Oui. C'est pas Sudrail qui a dit allez-y, les gars.
Est-ce qu'un train peut partir?
C'est les contrôleurs qui sont venus nous voir, qui nous ont pris par le callback et qui nous ont dit maintenant, va falloir bouger, on n'en peut plus. Alors, soit les gens les entendent. Alors, oui, c'est la galère. Vous ne pouvez pas prendre votre train, c'est la galère. Mais derrière tout ça, un train, ça fonctionne parce qu'il y a des cheminots et des contrôleurs qui bossent. Et eux, ils n'en peuvent plus.
Non, non, vous, ça, vous êtes hermétique. Hein. C'est pas possible. Je ne pose pas la question. Je vous regarde et je connais la réponse.
On est les dindons de la farce quand je vois le prix du billet, des abonnements à l'année.
Ah, ça, mais ça, c'est la direction. Ce n'est pas les travailleurs.
À un moment, c'est plutôt les Français qui devraient faire grève parce que le service public n'est plus là.
Ah oui, ah oui, mais ça, c'est des décisions qui appartiennent pas, malheureusement.
On a dilapidé la SNCF.
Bien sûr.
Et on a des agents qui subissent en fait cette dilapidation que les Français ont voulu parce que les Français, ils ont élu les politiques qui ont permis cela. Donc, à un moment, on est les dindons de la farce. Ça tombe bien, c'est Noël. Mais je pense que malgré tout, le problème, c'est que eux vont se faire avoir. Ils vont se faire avoir, ces syndicats, parce que les Français vont en avoir ras-le-bol, ils ne vont pas les soutenir. Et que derrière, le gouvernement, quand il va vouloir aller plus loin vers la privatisation, eh bien, ils n'auront pas le soutien des Français.
C'est vrai que c'est la grosse question qui va être publique. Oui, mais ça, c'est irrémédiable. C'est-à-dire qu'ils fassent grève ou non, de toute façon, à un moment donné, on va vers cette
logique. Mais il vaut mieux éviter d'être détesté dans la vie, non ?
Mais bien sûr, mais ce n'est pas pour autant qu'ils seront soutenus si demain, on continue de démanteler le réseau ferroviaire français.
Qu'ils fassent la grève gratuite, ça, ce serait bien plus intelligent. C'est-à-dire pas de contrôle. Vous montez dans les.
SNCF, elle pourrait faire rouler les trains sans contrôleur. Hein.
Ben oui.
Mais elle le fait pas.
Pas de contrôle. Que les gens, ils montent dans le train, ils payent pas le train. Voilà. Là, vous allez voir que la SNCF va vite se réveiller, que le gouvernement.
Non, mais c'est la SNCF qui décide de ne pas faire rouler les trains sans contrôleur.
Plutôt qu'aller emmerder les Français en supprimant des trains, on ferait mieux de faire circuler des trains où il n'y a pas de contrôle. Et là, je peux vous dire que la donne serait différente et que les Français seraient derrière les contrôleurs, les syndicats et les agents de la SNCF parce qu'ils se diraient. On participe ensemble à la sauvegarde de notre
système. Le problème, c'est qu'un train ne peut pas rouler sans contrôleur, parce que le contrôleur ne fait pas que contrôler. C'est... Il doit prévenir des tas de choses. SNCF, il y a un malade, il y a des ports, quoi que ce soit. Il y a...
Avec le contrôleur qui ne contrôle pas, c'est-à-dire la grève des billets gratuits. Il me semble que certains pays d'Europe l'avaient fait. Alors en France, on nous vend les histoires d'assurance, etc. Bon, c'est complètement faux en réalité, parce que vous avez une protection qui est due et qui est obligatoire. Mais ça, ce serait quelque chose.
Les Français, on ne peut pas comprendre. Quand on est privé d'aller voir sa famille, ses enfants, de rejoindre, vous ne pouvez pas comprendre, même si vous êtes rationnel, même si vous êtes de gauche à la gauche, de la gauche, de la gauche, comme Frédéric Durand qui s'est dit, défendre. Mais je plaisante, les travailleurs. Il n'y a pas d'argument, vous voyez, quand vous n'avez pas de solution. Bon, mais écoutez,
Un argument, c'est le démantèlement du service public et de la SNCF qui a été explosé en 6 sociétés où les gens n'y s'y retrouvent plus. Et il y a des arguments pour eux. Il le disait, le gars dessus, de là, sur votre antenne, c'est pas eux qui ont décidé.
Donc,
en vérité.
Pour vous, c'est pas une grève de privilégiés.
Juste, je vais finir. Ben, quand on gagne entre 1005 et 1008, voire 2002 par mois, non, c'est pas ça en France, c'est privilégié. C'est les 25% qui gagnent plus que ça. Et beaucoup plus. Donc oui, si vous voulez parler de privilégiés, ils sont pas, il ne faut pas les chercher là. Et quand vous faites des métiers...
La retraite, bon bref, vous m'avez vu venir.
On n'est pas d'accord.
Et Fred,
sur ceux qui sont privilégiés, on n'est pas d'accord sur ceux qui...
Dans ces usagers, vous en avez plein.
Mais j'en fais partie.
De la classe moyenne et qui sont en salaire médian.
Mais moi, je
ne peux pas se permettre de faire grève quand ils sont libéraux, indépendants.
Bien sûr.
À un moment donné, à chacun prêche pour sa paroisse. Puis puisqu'on parlait de services publics et de services de la SNCF, moi je vais pousser un coup de gueule aussi, parce qu'il n'y a plus de guichet physique, il n'y a plus que automatisme. Alors, quand on est malvoyant, aveugle, dyslexique, personnes âgées, eh bien, on subit doublement la fracture numérique pour des billets qui sont au même prix.
Mais une fois de plus, c'est la direction qui fait ces choix-là. Ce ne sont pas les salariés.
Ah, mais moi, je ne peux pas le faire seul.
Est-ce qu'on peut trouver des usagers ? D'ailleurs, on dit usagers, on paye bien. C'est des clients. Oui. C'est mieux que de dire usager, qui comprennent.
Bah, c'était usager tant que c'était un service public,
c'est ça,
oui.
Bravo. C'est ça. On a tendu notre micro, alors on va voir. Il a été dit à la gare Montparnasse.
C'est embêtant pour beaucoup de gens, mais il faut aussi comprendre les gens qui le font parce qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait le choix.
Des revendications, toujours des revendications. On veut du pognon, on veut du pognon. Il n'y en a plus du pognon. Travaillons et mettons de côté plutôt que toujours gueuler et faire chier les autres surtout. C'est un peu radical ce que je dis, mais c'est quand même ce que je pense.
Moi, je trouve que c'est un peu chiant, ça ne m'arrange pas avec les trains. Après, ils doivent avoir leurs raisons, donc je ne saurais pas trop quoi vous dire de plus. Mais en tout cas, moi, ça me fait bien chier, j'avoue. Enfin, ça m'ennuie, du moins.
Chaque année, c'est la même chose, donc je ne me suis pas penchée sur le sujet. Je ne peux pas juger ceux qui font grève parce qu'ils doivent avoir des bonnes raisons. Mais je suis surprise que la SNCF ne trouve pas des solutions durables parce que c'est chaque année la même chose.
Mais c'est un florilège, ce micro-trottoir. Pour une fois qu'il n'y a pas de rat, déjà, c'est déjà ça. Et là, enfin, c'est un cri du cœur. Hein. Je pense qu'ils utilisent le vocabulaire qui leur vient à l'esprit.
Les syndicats ont des raisons que la raison ignore. Hein.
Bien vu. Bah, écoutez, sur une si belle conclusion, on va passer à un autre sujet. C'est un sondage. Alors, c'est un sondage, bon, ça ne va pas vous surprendre, mais ce qui m'intéresse dans ce sondage, c'est toujours le clivage politique. Et d'ailleurs, on peut en avoir ici un exemple sur ce plateau. La question est simple, si je puis dire. En tous les cas, êtes-vous favorable à la sanction des familles de délinquants? Bon, vous allez voir qu'il y a quand même une majorité de Français qui sont favorables, mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu plus loin dans ce sondage et de voir le clivage, on va le voir s'afficher justement, plutôt entre les tendances de droite et les tendances de gauche. C'est assez net, vous allez voir, parler d'un vrai clivage. Là, je parle le temps d'avoir justement à l'écran. Voilà, formidable. Les Français et l'expulsion des familles de délinquants. Alors là, très bien. Donc, de leur logement HLM. Eh bien, 62%. Et vous voyez, on va voir juste après les différences entre les personnes ou les individus en fonction de leur couleur politique. Bon, c'est pas étonnant. Les Français... Ah non, d'accord. Là, c'est encore général. Bon, est-ce qu'on peut avoir, j'allais dire, un peu plus loin, la nuance dans les deux questions en fonction de clivage politique? Bon, ça va venir dans quelques instants, mais je vous le dis, il y a un clivage gauche-droite. Qui ça surprend? Personne. Mais vous allez voir que quand même, sur certains sujets, la gauche, si le curseur progresse, etc. Comment on peut l'expliquer, Paul Melun? Est-ce qu'il y en a un qui, voilà, c'est pas possible. Sur certains sujets, aujourd'hui, il y a une forme d'unanimité en se disant, on ne peut plus laisser faire.
Bah, si vous voulez, il y a certains sujets. Alors, l'insécurité, la délinquance, la violence de rue est quelque chose qui, je pense, dans les décennies à venir, dans les années à venir, va finir par faire consensus. Ça y est, si vous voulez, c'est le poids du réel. C'est qu'à un moment donné, les clivages font le travail des clivages, les idéologies se confrontent, on débat depuis des années, puis il y a des gens qui nous disent non, tout va très bien, madame la marquise, il n'y a pas de problème de délinquance, il n'y a pas de problème d'insécurité en France. Et puis à un moment donné, gauche ou pas gauche, vous êtes confrontés au mur du réel. Et parfois, il peut être extrêmement rugueux, ce mur. Et là, on est en train d'entrer dedans. Lorsque vous voyez les faits de délinquance abominables, les faits terribles qu'on a vus ces dernières semaines, ces derniers mois, lorsqu'on voit cette dame à Cannes qui a été agressée par ses mineurs d'une violence sourde, d'une violence totale, et bien à un moment donné, même les électeurs de gauche commencent à se dire « Mais bon Dieu, il faut agir. Il faut essayer de trouver les solutions pour que ça ne se reproduise plus, pour qu'on endigue ce climat d'hyperviolence ou d'ensauvagement. » Et donc, les dirigeants politiques de gauche, eh bien, même s'ils sont bercés d'idéologies ou de paroles ou de mots ou de textes depuis des années, eh bien, ils sont rattrapés tout simplement par leur électorat et par la pression de la société. Les choses arrivent aussi d'en bas, parfois, dans la société. Et si vous voulez, et ce sont souvent ça qui permettent d'insuffler des grands changements au pays. Et donc, sur ce type de sondage, moi, je ne serais pas surpris que, dans l'électorat de gauche, il y a une portion importante, alors on n'a pas encore eu le détail, mais qui est une portion importante au sein de l'électorat de gauche, de gens qui disent, eh bien non, ça suffit, on fait quelque chose sur les aides sociales. Après, sur le fond du sujet, moi, je ne suis pas forcément convaincu que la suppression des aides sociales ou l'expulsion des HLM va comme ça, comme un coup de baguette magique, permettre de résoudre le problème de la délinquance. Je pense que c'est, on se fait plaisir avec cette mesure, on se dit, tiens, comme ça, là, ils vont payer, ça suffit ce qu'ils ont fait. Bon, moi, je peux, à la rigueur, je ne suis pas fermé à cette proposition-là, mais on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion de fond sur la réponse pénale, sur l'immigration de masse, sur la violence, sur le civilisationnel, et tout un tas d'autres sujets qui sont hautement plus importants que celui, eh bien, je dirais, des allocations sociales.
D'autant plus sur la suppression des aides, moi, je pose toujours la question de la faisabilité, parce qu'entre une idée qui peut paraître comme ça, ferme, autoritaire, séduisante, entre guillemets, pour tenter de régler le problème, que dit la loi? Maître, vous allez nous aider, regardez les explications de Clémence Barbier.
En octobre dernier, Gérald Darmanin a affirmé vouloir généraliser l'expulsion des familles de délinquants. Mais que dit la loi? Si des troubles du voisinage sont constatés, comme le trafic de stupéfiants, les locataires peuvent être expulsés. Le bailleur doit obtenir une décision de justice, puis l'accord du préfet. Certaines municipalités ont aussi décidé d'instaurer des chartes aux familles avant l'occupation du logement social. La mairie de Nice a signé une convention entre le procureur de la République et le préfet des Alpes-Maritimes permettant au bailleur Côte d'Azur Habitat d'être informé de la condamnation pénale d'un locataire. En ce qui concerne les aides sociales, les familles de personnes condamnées pour des faits de délinquance peuvent-elles en être privées? Non, pour les allocations versées par l'État, comme la CAF ou les APL, car elles sont conditionnées aux ressources des familles et non au comportement individuel. En revanche, les mairies ont le pouvoir de suspendre des aides sociales dont elles sont les maîtrises, comme par exemple les chèques sport ou l'aide au paiement de la cantine. Plusieurs villes ont franchi le pas, comme à Poissy dans les Yvelines ou à Valence dans la Drôme.
Oui, ce sont des aides qui sont liées en fait aux mairies. Ça, c'est de la responsabilité aussi du maire, ce qu'il distribue. Oui, ça n'a rien à voir avec les aides sociales telles qu'on pourrait les imaginer.
C'est pas la même chose.
Exactement.
C'est un système qui est assez complexe. Il y a les aides municipales, oui, qui sont déterminées par des conditions définies par les communes. Et donc là, il y a des marges de manœuvre un peu plus ouvertes. Et c'est vrai que, par exemple, pour les aides qui proviennent de la CAF, les conditions sont de manière à ce que c'est compliqué, sauf un changement de la loi. Mais moi, je ne suis pas tout à fait convaincu par le fait d'aller taper les familles des délinquants. Pourquoi? Parce que j'en vois très souvent devant les tribunaux correctionnels, et vous avez beaucoup de familles qui sont désemparées par le comportement de leurs propres enfants. Et vous avez des mères de famille qui ne savent pas quoi faire de leurs gosses.
Les familles monoparentales, mais souvent... Chaque fois qu'on a fait ce débat, je reçois beaucoup de réactions me disant nous ne faisons pas partie de ces familles de délinquants. Et puis nous avons les moyens d'élever nos enfants, de ne pas les laisser dans les rues, etc.
C'est pas si simple. Honnêtement, c'est pas si simple. Moi, je pense que la vraie solution, c'est de régler la primo-délinquance. C'est-à-dire un jeune de 16, 17, 18 ans, 19 ans qui est attrapé à commettre un délit. Il faut que la réponse pénale soit immédiate, réelle et cinglante. Et là, aujourd'hui, vous avez des gamins, ils passent dans le tribunal correctionnel, ils ressortent, ils comprennent même pas la peine, ils reviennent après, des fois ils ont des délais différés, ils sont jugés 1, 2, 3 ans après, ça ressemble à rien. Là, si vous attrapez un jeune qui est en train de faire un acte, je sais pas, de délinquance, trafic de drogue ou autre, un vol, vous l'attrapez, boum, il passe en comparution immédiate et vous avez une peine complémentaire, je ne sais pas, une obligation de stage civique de 6 mois ou une obligation de service national. Là, je peux vous dire que vous allez être efficace. Et c'est ici que doit résider la réponse pénale, non pas dans des situations démagogiques qui en plus vont surcharger nos tribunaux parce que les gens vont vouloir se défendre, les familles vont vouloir se défendre.
Mais c'est ça,
Juges, ils vont se retrouver devant des cas
particuliers. J'ai peur de l'illusion de la fermeté et de l'autorité. Bah oui.
Ça peut avoir même un effet contraire.
Mais exactement.
Oui. En plus, les expulsions de logement, vous allez expulser ces familles, mais où vont-ils aller vous voyez, c'est comme quand on dit on va démanteler les points de deal, alors on déplace les gens.
Moi, je préfère, dans ce cas-là, il y a des gens qui attendent des années pour ces logements.
Oui, mais en termes d'effet, vous avez raison Sonia, mais en termes d'effet sur la délinquance, je doute de la force de la mesure.
Vous partagez cet avis?
Mais moi, je suis très mitigée, en fait, sur cette proposition. C'est-à-dire que la première, qui consisterait à supprimer les aides, ça me pose un problème sur le plan moral. Parce que vous avez certaines fratries qui n'ont rien fait et qui vont subir, qui vont pâtir, en fait. Le comportement de leur frère ou de leur sœur délinquant n'est pas forcément le leur. Donc, si on leur coupe des aides sociales...
Et d'autres pour lesquelles ça fait vivre un trafic de drogue.
On est bien d'accord. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué et qu'une fois de plus, on ne peut pas être manichéen sur ce genre de sujet. Sur l'expulsion, par contre, moi, je serais beaucoup plus dure. Quand on sait que certaines familles sont, navrées pour l'expression, arrosées par le trafic de drogue, eh bien dans ces cas-là, oui, moi je serais pour l'expulsion au profit de familles et de citoyens qui demandent des logements sociaux depuis des années, à qui on n'accorde rien, qui doivent attendre et qui, eux, sont respectueux de vivre dans le cadre, le logement social. Donc oui, là je le saurais. Mais il faut encore identifier ces familles. Comment savoir qui fait quoi? On ne va pas mettre un inspecteur de la CAF derrière chaque famille. Donc c'est très compliqué et moi je me méfie aussi de ce genre de mesures parce qu'il y a beaucoup de démagogie et de dogmatisme derrière.
Famille, à partir de quand c'est la famille ou plus la famille? Vous pouvez très bien dire que votre fils ne vit plus chez vous, vous êtes tranquille. D'un point de vue de la loi, moi je me mets dans la place d'avocat, je suis avocat, mais vous allez avoir des systèmes de protection et finalement ça ne va pas fonctionner. C'est une usine à gaz, concrètement c'est une usine à gaz. On ferait mieux d'investir dans des centres fermés pour pouvoir accueillir des jeunes délinquants et les remettre dans le droit chemin, plutôt que créer des usines à gaz qui, ça, vont plaire à un électorat, mais ne correspondent à aucune réalité.
Je vous ai dit qu'il y a un clivage droite-gauche, ça ne vous surprendra pas. Du côté de la NUPES, France Insoumise, évidemment, opposition totale. Écoutons Alexis Corbière, il était l'invité de la matinale CNews ce matin.
Pourquoi une famille de délinquants devrait être expulsée de votre logement? Je ne sais pas si vous avez un enfant.
Vous devez très bien comprendre.
Si votre fils est délinquant, vous devez être expulsé de votre logement? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais. C'est simpliste, ça ne rime à rien. La délinquance, pourquoi? Qui est responsable? Que la personne qui est responsable soit jugée, sanctionnée? Oui, sans aucun doute. On est en train de parler du fait que, je ne sais pas, vous avez un fils aîné de 20 ans qui fait une bêtise, on va vous expulser de votre logement? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est du bon sens?
Oui et non, parce que si vous voulez, la gauche en général n'a pas pris conscience que ceux qui subissaient le plus ces désagréments, ce sont les classes populaires, les classes populaires modestes. Donc effectivement, si quelqu'un fait du rodéo toute la journée dans votre cité en bas, au bout d'un moment, les gens disent il faut que cette famille-là le parte, parce qu'on n'en peut plus de vivre avec cette famille-là. Et c'est pas... là, je ne parle pas de... Alors après, il faut faire du cas par cas, effectivement, j'ai bien entendu ce que vous disiez, ça peut vite se transformer en usine à gaz. Parce qu'il y a la bonne foi, c'est-à-dire il y a des gens qui sont réellement dépassés. Il y a des familles qui sont dépassées, des gens qui n'arrivent plus à éduquer leurs enfants, donc il faut quand même trouver des solutions.
Vous êtes en train de me dire que c'est infaisable. Et moi, ce qui m'embête, c'est...
Je ne sais pas si...
Non, mais c'est très compliqué, on ne va pas...
Je dis juste qu'il faut faire du cas par cas, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment débordés, et puis il y en a d'autres qui laissent faire. Et ceux qui laissent faire, ceux-là, il faut leur dire, attention, on les rappelle à leurs responsabilités. On parle de quoi? On parle d'enfants mineurs, parce que dès lors que l'enfant est majeur...
Frédéric, oui. J'en ai parlé, parce qu'on va marquer une pause pour parler de ce qui s'est passé à Cannes. Vous savez qu'on a fait le suivi de cette agression de cette mamie octogénaire à Cannes. Et hier, il y a eu une première décision de justice, parce que maintenant justice, une première, comment dire, audience de culpabilité.
Et après, il y aura l'audience de sanction.
Ça va plus vite comme ça ou ça va moins vite?
Je ne suis pas spécialiste du droit des mineurs, mais mes confrères sont assez peu satisfaits de cette réforme pour ceux qui...
Et alors, sur les trois adolescents délinquants, il y en a un qui a été relaxé pour défaut de procédure. Vous allez voir, c'est quand même assez incroyable. Et puis, on recevra un auteur avec nous. Peut-être que vous allez pouvoir répondre à la question. Et est-ce que c'est votre avis? Qui en veut aux catholiques? Incendie, profanation, c'est fait qu'on ne veut pas voir. Qui ne veut pas voir? Qui n'en parle pas? Qui leur en veut? On en parle dans quelques instants tout de suite et on vous attend. Merci d'être avec nous. La deuxième partie de Midi News, un livre et son auteur dans quelques instants. Qui en veut aux catholiques? Nous serons avec le journaliste Marc Hainaut, très intéressant, vous allez voir, et assez édifiant. Nous parlerons aussi de sujets d'actualité, mais tout d'abord, c'est le journal. Rebonjour à vous, cher Mickaël.
Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Anticiper d'éventuelles coupures d'électricité, c'est l'objet de la circulaire que le gouvernement va adresser aux préfets, des coupures programmées qui pourraient concerner 60% de la population, à l'exception des sites critiques et des clients prioritaires. Jeanne Cancard, vous êtes dans le Loiret, à Pithiviers précisément, où un réseau électrique a fait des recommandations à ses clients.
Oui, Mickaël, s'il s'agit du réseau électrique, du réseau d'énergie SICAP qui se trouve juste derrière moi. Hier, il a envoyé un mail, un communiqué aux habitants du Loiret et donc à cette petite commune en les prévenant que potentiellement il pourrait avoir des coupures d'électricité cet hiver. Et donc pour ça, pour faire face à ces potentielles coupures, il fallait qu'ils se munissent en piles électriques et en bougies. Alors c'est des recommandations qui font sourire la plupart des riverains que nous croisons ici. Ils nous disent oui, d'accord, ok, je vais faire le plein, je vais essayer de m'équiper pour affronter ces potentielles coupures. Et puis d'autres, surtout les personnes âgées qui, elles, sont davantage inquiètes. Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour appeler le SAMU si besoin? Autant de questions qui traversent l'esprit de ces personnes âgées, puis aussi des parents qui nous disent mais comment je vais faire pour amener mon enfant à l'école puisque les écoles ne seraient pas concernées au même titre que les hôpitaux ou que les commissariats par exemple de police pour être exemptés de ces coupures électriques. Alors il y a beaucoup de questions, certains vont sur internet pour essayer de se renseigner. Nous, on arrive à leur donner quelques idées, quelques éclaircissements, mais on ressent beaucoup de flou et beaucoup d'appréhension chez certains, particulièrement chez les restaurateurs qui craignent de devoir fermer parfois le soir, là où ils font le plus gros chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'au total, sur l'ensemble du territoire, ça pourrait être 60% des habitants, des Français, qui seraient concernés par ces potentielles coupures d'électricité.
Merci Jeanne Cancard, en duplex donc de Pithiviers cet après-midi. Et bonne nouvelle pour les indépendants, le gouvernement va baisser les charges sociales pour les travailleurs indépendants, annonce faite ce matin par le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, chez nos confrères d'RTL, on l'écoute.
C'est la traduction d'une promesse de campagne du président de la République pour les indépendants, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, d'avoir une baisse pérenne de leurs charges. Et donc j'ai signé hier le décret qui va permettre à ces indépendants, 1 600 000 indépendants, de bénéficier de cette baisse pérenne de charges. C'est autour de 550 euros quand on est au SMIC de baisse de charges sur un an.
550 euros, ça fait 45 euros par mois, ça va suffire?
C'est un geste quand même...
Mieux que rien, vous allez me dire?
Je dirais pas ça non plus, puisque c'est quand même un budget pour les finances publiques.
L'inquiétude à présent dans les supermarchés face à la hausse des prix de l'alimentation et à l'inflation, des augmentations qui se traduisent par une baisse de pouvoir d'achat pour les Français, contraints de plus en plus souvent à faire des sacrifices lorsqu'ils font leurs courses. C'est ce qu'expliquait Dominique Schellcher ce matin sur France Inter, PDG de Système U. On l'écoute.
Le mot qui me revient le plus souvent des collaborateurs et notamment des hôtesses de caisse qui, pour le coup, cette fois, sont en première ligne, c'est de l'inquiétude. L'inquiétude de l'avenir. Ils le disent, on a peur, on n'est pas rassuré de ce qui va se passer. Et donc, oui, au passage à la caisse, on a actuellement plus de dépôts de produits parce qu'au moment de l'addition, il y a des gens qui disent, non, finalement, ce produit, je ne le prends pas. Et ces petits tas qu'on a traditionnellement dans nos magasins prennent un peu de l'ampleur.
En ce qui concerne le pouvoir d'achat, nous sommes le 1er décembre, voici ce qui change à partir d'aujourd'hui. Le chèque énergie qui passe de 100 à 200 euros pour 40% des foyers. La prime de Noël dès le 15 décembre pour les ménages bénéficiaires de minima sociaux. Et puis le bonus réparation de 10 à 45 euros pour réparer les objets du quotidien. Le président français en visite d'État à Washington, après un dîner informel hier soir au restaurant pour les Macron et les Biden, les deux présidents doivent dîner ensemble ce soir à la Maison Blanche. On écoute tout de suite la première dame, Jill Biden.
Our hope is that the end result
Notre espoir est que le résultat de cette soirée témoignera de la beauté de notre amitié et du sérieux de la rencontre. Nous espérons que les citoyens français percevront la chaleur de notre accueil, que notre amitié soit plus forte, que nos liens se resserrent et que notre avenir soit radieux avec ce partenariat renforcé.
Allez, on file au Qatar pour le mondial.
Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
Et on retrouve tout de suite Mathilde Espinasse, envoyée spéciale Canal Plus à Doha. Mathilde, le résultat de la France hier soir face à la Tunisie est contesté. Une réclamation a même été déposée.
Une fin de match assez confuse, on va essayer de vous rendre ça le plus clair possible. La Tunisie est en train de mener 1-0, nous sommes à la 98e minute de jeu. Hier soir, Antoine Griezmann, inscrit à but, pense arracher l'égalisation. Joie des joueurs, joie des supporters, tout le monde retourne ensuite vers le rond central et l'arbitre de la rencontre, Matthew Kanger, un arbitre néo-zélandais, siffle la reprise de cette rencontre. Il va même siffler la fin du match et ce n'est qu'après avoir sifflé cette fin de match alors qu'on pense qu'il y a un partout, qu'il va aller consulter la VAR, l'arbitrage vidéo, qu'il va voir qu'il y a une position de hors-jeu d'Antoine Griezmann et qu'il va donc annuler le but et sceller donc ce score de 1-0 pour la Tunisie. Seulement voilà, c'est là qu'est le problème, c'est que l'arbitre de cette rencontre, il n'avait pas le droit d'aller consulter la VAR après avoir sifflé la mise en jeu. C'est pourquoi la Fédération française de football a déposé une réclamation dans la soirée. Alors on attend maintenant du coup le retour de la FIFA quant à cette réclamation qui a été déposée. Mais cela ne changera rien. La France reste qualifiée, quel que soit le score, 1-0 ou 1 partout. La France reste qualifiée pour les huitièmes. La Tunisie reste éliminée. Donc quoi qu'il arrive, quoi que la FIFA décide, la France affrontera bien la Pologne dimanche en huitièmes de finale.
Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
La suite de vos débats, il y a du monde en plateau. Caroline Pilastre est restée avec nous, Frédéric Durand, Paul Melun, Maître Maxime Thiébaud et on accueille le journaliste Marc Hainaut. Merci d'être avec nous, bonjour à vous.
Merci à vous, bonjour.
Journaliste auprès de Boulevard Voltaire. Il y a ce livre dont on va beaucoup parler là tout à l'heure dans quelques instants, qui en veut aux catholiques, incendie, profanation. Ces faits qu'on ne veut pas voir, vous nous direz qui ne veut pas aller voir, même si on peut avoir une petite idée. Et on a avec plaisir aussi notre spécialiste pour les justices. Bonjour Noémie Schulz.
Bonjour,
avec vous Noémie, on en a déjà parlé hier, on fait le suivi de cette affaire qui a beaucoup ému évidemment, l'agression de cette mamie, de cette octogénaire à Cannes avec ses agresseurs mineurs devant la justice hier. Et on va expliquer dans quelques instants cette particularité de la justice des mineurs en deux temps puisque hier c'était l'audience de culpabilité et puis il y aura le temps des sanctions. Deux adolescents délinquants sur trois ont été reconnus coupables. On va juste évoquer l'avocat de cette dame et juste après vos explications Noémie.
On n'a pas ressenti de la sincérité véritable, une prise de conscience véritable, ça on ne l'a pas ressenti. Et c'était désolant, vraiment, c'est ce que peut-être, parce que l'indemnisation c'est une chose importante, mais pas le plus important, aucune somme ne peut venir rétablir madame dans son préjudice. Par contre, on aurait pu attendre peut-être qu'il fasse plus preuve de profil bas, une prise de conscience, ça fait 3 mois qu'ils doivent réfléchir sur les faits, on ne l'a pas senti, je ne l'ai pas senti. Et madame Moine ne l'a pas senti non plus, ça c'était peut-être un peu, voilà, c'est déplorable.
Noémie, pourquoi deux temps alors que, pour la justice, celle des mineurs, mais pour la justice en général, il faudrait que ça aille plus vite?
Alors ça va justement plus vite, paradoxalement. C'était l'objectif avec la réforme des mineurs qui avait été votée en mars 2021 et qui est entrée en vigueur en septembre 2021. C'était justement d'accélérer. Le délai moyen pour juger un mineur était de 18 mois et il y avait des situations où régulièrement un jeune était même devenu majeur entre le moment où il avait commis les faits et le moment où il était condamné. Donc là l'idée c'est de dire dans un délai très court qui est de 3 mois maximum, d'entre 2 semaines et 3 mois après les faits, eh bien, il y a cette audience de culpabilité au cours de laquelle, effectivement, on va statuer, on va dire si le jeune est reconnu coupable. Ensuite, effectivement, on donne rendez-vous dans un délai qui est là de 6 à 9 mois plus tard pour statuer sur la peine. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant ce laps de temps? Eh bien, on va observer comment va évoluer ce jeune. Souvent, il va y avoir des obligations à respecter. En l'occurrence, les deux jeunes dans cette affaire ont été placés sous contrôle judiciaire avec l'obligation de respecter le placement en centre éducatif fermé. Ils vont donc être pendant 6 mois privés de leur liberté. Ils sont dans un centre éducatif fermé. Interdiction d'entrer en contact avec la victime, obligation de formation. Pendant les 6 prochains mois, ils vont être observer, c'est une forme de période d'observation, de mise à l'épreuve éducative, et dans 6 mois, leur condamnation va dépendre notamment de l'évolution de leur comportement dans ce centre éducatif.
Et non pas de ce qui a été
bien sûr que la gravité,
mais ça entre en compte, faits, évidemment.
Mais c'est déjà entré en compte. Le fait que ces jeunes, ils aient été immédiatement placés en centre éducatif fermé et qu'ils y restent pendant encore 6 mois, donc ils y auront passé au minimum 9 mois quand il y aura la seconde audience, c'est déjà un signe de fermeté. On rappelle que c'est des jeunes de 14-15 ans qui n'étaient pas particulièrement connus.
On essaie de dire qu'il faut rapprocher la peine de l'acte, il ne faut pas justement que ça devienne évanescent. Est-ce que là, le risque, c'est justement que le temps passe, maître, je ne sais pas ce que vous en pensez.
En tout cas, la philosophie de la loi, quand on avait posé la question à la chancellerie, c'était au contraire de renforcer la prise de conscience des faits qu'il avait commis pour le mineur. Et que quand vous jugez des faits un an et demi après le moment où ils se sont passés, généralement, il voit même pas forcément très bien de quoi on lui parle. Il faut savoir aussi que les parents, maintenant, sont mieux informés. Ils sont convoqués à toutes les audiences. S'ils ne se présentent pas, par exemple, l'audience d'hier, les parents étaient convoqués. Si les parents ne se présentent pas, ils encourent une amende ou un stage de responsabilité pénale. Donc, effectivement, la peine sera donnée dans plusieurs mois. Mais encore une fois, dans le laps de temps, là, ces deux jeunes, sont en centre éducatif fermé et ils vont être observer, leur comportement va être mis à l'épreuve.
Alors qu'avant, ils étaient libres, c'est ça. Si on comprend bien, avant.
Non, je ne crois pas.
Non.
Ils étaient libres avant cette mesure-là.
Ça dépend s'il y avait un placement. S'il y avait un placement.
Là, vu la gravité des faits, à mon avis.
Il aurait pu se passer un temps plus long avant qu'ils ne soient confrontés, présentés à un magistrat. Encore une fois, c'est quand même un cadre solennel, d'être présenté devant un juge des enfants. Même si là on entend effectivement que cette avocat trouve qu'ils n'ont pas bien
la hauteur des gravités.
On voit la gravité de la
deux remarques. La première, c'est que c'est pas forcément plus intelligible, notamment pour les parties civiles. C'est-à-dire les victimes, des fois, ne comprennent pas pourquoi il y a une audience de culpabilité et 9 mois plus tard, cette audience de sanction. Et entre-temps, malheureusement, et c'était la volonté du législateur que d'avoir un contrôle sur ces jeunes mineurs, mais on sait qu'en pratique, ce n'est que rarement le cas, parce que les juges des enfants sont surchargés de travail, qu'ils n'ont pas le temps, le tribunal des enfants n'a pas le temps, malheureusement, surtout pas les moyens, de pouvoir assurer suivi. Et en fait, je trouve qu'on perd un petit peu le substrat de cette réforme législative, parce qu'en réalité, les jeunes savent qu'ils ont commis un acte et qu'ils ont été reconnus coupables 9 mois au préalable, et ils sont sanctionnés 9 mois après, sans trop comprendre parfois pourquoi ils se retrouvent à nouveau devant le juge. Et donc, je pense que l'idée philosophique était la bonne, mais de ne pas avoir mis les moyens derrière, un petit peu.
Et puis le rôle, la responsabilité des parents. Hein. Là, on parle quand même de mineurs délinquants aussi, c'est important. Donc, à part être là à l'audience.
On est responsable des faits qu'on commet soi, mais on ne peut pas condamner des parents pour les coups portés par leurs enfants. Après, on peut les associer à la procédure, on peut effectivement faire en sorte qu'ils accompagnent mieux leur enfant, mais. Parce que pour condamner, notamment le troisième jeune, que ça a été évoqué, il y avait trois jeunes, le troisième a été relaxé
pour défaut de procédure.
Mais notamment parce que la prévention, les raisons pour lesquelles il était renvoyé devant la justice, c'était complicité de vol avec violence. Or, pour être condamné pour complicité, il faut apporter la preuve qu'on a apporté une aide ou une assistance dans la commission du délit. Or, ce jeune, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas apporté cette aide-là, il a filmé. En fait, il aurait fallu qu'il soit poursuivi, et ça aurait pu être le cas pour le happy slapping, vous savez, cette loi qui permet des sanctions pour ceux qui filment un délit dans le but de le diffuser sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, il aurait pu être sanctionné pour ça. Là, il a été relaxé parce que les magistrats étaient saisis pour la complicité de vol et qu'ils n'ont pas pu le condamner pour ça, mais le parquet peut éventuellement faire appel de cette relaxe et on pourrait imaginer que ce jeune-là soit à nouveau présenté devant la justice et condamné.
La victime qui entend cela, c'est terrible.
Et surtout que c'est dans l'assistance à personne en danger, hein. Pardonnez-moi Paul. Il filme, il ne lui vient pas en aide.
Mais au contraire,
pardonnez-moi.
Il y a une loi, encore une fois, il y a un délit qui est donc ce délit de happy slapping, c'est sciemment filmer ou diffuser sur Internet des violences subies par une personne physique. Ce délit est puni par le code pénal de 5 ans de prison et 75 000
euros. C'est un appel du parquet qui intervient.
Oui, mais c'est toujours.
Mais vous avez des jeunes qui sont reconnus.
Est-ce que la victime est au centre de la procédure ou pas ?
Mais c'est pas du tout intelligible. Moi, j'ai un exemple en tête. Le jeune est mineur, il a 17 ans. Il passe devant l'audience de culpabilité, il devient majeur entre-temps, il recommet des actes, il passe en comparution immédiate devant le tribunal pour adultes, le tribunal correctionnel, donc il est condamné, et ensuite il se retrouve pour l'audience de sanction quand il était mineur 6 mois plus tard. Enfin, c'est un bordel incroyable, il ne comprend rien. Et c'est ça le problème aussi, c'est-à-dire qu'on a des gens très intelligents qui ont des très bonnes idées,
Mais tu oublies que la pratique, c'est pas ça.
L'idée est juste peut-être de dire pourquoi il y a ça. C'est pas de faire durer d'étirer les délais. C'est de se dire que ce sont des gens jeunes et qu'il y a l'idée finalement de les sanctionner, mais de faire en sorte aussi qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait
et que c'est-à-dire qu'ils sont réinsérables.
Le comportement change, bon. Ils doivent réinsérer.
Oui, mais moi j'ai entendu ce que dit l'avocat, mais c'est vrai qu'il est de parti pris, c'est l'avocat de la vieille dame qui dit, mais ils se sont comportés, y compris devant les enquêteurs, de manière totalement... Mais totalement.
Et il a l'air de dire effectivement que même à l'audience, alors ils ont présenté des excuses, ils ont forcément été briefés par leurs avocats, mais effectivement... Encore une fois, ils vont passer les 6 prochains mois dans un centre éducatif fermé, avec des observés, avec des éducateurs. Peut-être qu'il y aura, je ne dis pas que ça va être le cas, mais l'idée, encore une fois, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là, on les sorte de la délinquance et non pas on les...
Oui, mais c'est,
on
mais
les,
c'est on ça, les, c'est la vraie question, parce que quand on s'attaque, moi je pose la question, et vous allez me trouver très sombre peut-être, mais quand on s'attaque à une vieille dame, par l'arrière, on le frappe dessus, on lui vole son sac et l'autre y filme, moi oui, il faut croire que... Tout le monde peut être réinséré un jour, mais je veux dire, il y a un manque d'humanité, de civilité, de civilisation évident.
Et une carence éducative énorme.
Pour comprendre, il faut pouvoir faire preuve d'empathie, déjà. Pour éprouver des regrets vis-à-vis de son acte, il faut être capable d'empathie. Et c'est là où on rejoint le problème vis-à-vis des parents. On débattait, je crois que vous débattiez tout à l'heure des prestations sociales qu'on pourrait retirer à des parents. Les prestations sociales, elles sont là pour aider les parents à éduquer leurs enfants. À partir du moment où les parents n'éduquent pas leurs enfants, à partir du moment où les parents ne remplissent pas leur mission principale, l'État n'a pas à les aider, en fait, en réalité. On l'a vu d'ailleurs, des choses assez sombres, des histoires de tractation entre la victime et les proches des suspects, des essais de tractation, etc. On a vu, ce que l'avocat a très bien dit, on a vu aucune trace de regret ou même voire même de prise de conscience du mal qu'ils ont pu commettre. Et c'est ça en fait qui est dramatique. Comment vous voulez faire comprendre à des jeunes que ce qu'ils ont fait est mal dans la mesure où visiblement ils n'ont pas fait preuve d'empathie? C'est, vous l'avez dit, attaquer par derrière une vieille dame de 89 ans, c'est déjà extrêmement criminel en soi. Après, elle n'a pas du gain, une forme de désespoir peut éventuellement rationnellement mener à ce genre de choses, même si c'est condamnable. Mais la personne qui filme derrière et qui a pas l'air de trouver ça choquant, mais c'est encore pire en réalité, ça devrait être un facteur extrêmement aggravant. C'est tout le problème de cette jeunesse-là qui n'a même pas été élevée à l'empathie, en fait.
Non, moi, ce que je trouve affligeant dans ce pays, c'est que, si vous voulez, la complexité de la procédure pénale, tout ce qu'on entend là, qui est fort bien expliqué, mais à mon avis me paraît complètement abscon pour moi qui suis un néophyte sur le sujet, me paraît très préoccupant par rapport à la gravité des faits et au fait qu'un pays comme le nôtre devrait mettre en place des échelles de sanctions plus fermes, plus rapides, plus efficaces, plus radicales sur ce genre de cas. Enfin, il faut quand même voir la vidéo.
Bah là, vous levez l'excuse de minorité. Là, c'était le débat qui avait eu lieu, qui avait été lancé par le maire de Cannes.
On pourrait imaginer quelque chose de tout simple, je dis peut-être une bêtise, mais qui est, si vous voulez, des maisons de correction fermées et qu'après, à 18 ans, ils partent en prison pour un certain temps. Parce que là, ce qu'ils ont commis, c'est très grave. Mais si vous voulez, les réflexions sur la façon dont on va pouvoir les rééduquer, réfléchir, etc., franchement, voir comment est-ce qu'ils vont se comporter. Là, a priori, en plus, c'est pas très concluant pour le moment parce qu'ils n'ont pas vraiment l'air de regretter leur acte, mais si vous voulez, on nage quand même un peu en plein délire. Et quand on se met 2 minutes à la place des victimes ou de la famille des victimes, on se dit, mais c'est inaudible pour les Français d'assister à un tel marasme judiciaire par rapport à des actes aussi graves, quoi.
Et pourtant, Noémie, vous me dites que ça va plutôt dans un sens. Voilà.
Qu'est-ce que c'était avant?
La justice, c'est ça. Ça voulait plus faire.
Encore une fois, ces jeunes ont été immédiatement placés en centre éducatif fermé. Et là, jusqu'à l'énoncé de la peine, ils vont y rester. Alors la question, c'est dans 6 mois, à quelle peine vont-ils être condamnés? Est-ce qu'il y aura un maintien encore en CEF ou est-ce qu'il y aura une sortie avec une obligation de suivi? Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, la justice gardera un œil sur eux.
La vraie question, c'est est-ce que la justice peut pallier l'inhumanité de ces...
C'est ça. Moi, la vraie question qui est posée, c'est que quelle que soit la décision de justice, si ces jeunes-là ne se rendent pas compte qu'ils ont fait quelque chose de grave, pour moi, ça va au-delà de la justice. Il y a une question de morale qui est posée. C'est-à-dire, s'ils sont incapables de faire la distinction simple entre le bien et le mal, et qu'alors qu'ils se retrouvent en centre fermé, parce que justement, un début d'agir immédiatement, selon moi, c'était justement de faire prendre conscience de l'erreur de ce qui a été fait. Or, ils ont été placés immédiatement en centre fermé, pour autant, si on en croit l'avocat, comme vous le disiez, il peut être de parti pris, mais enfin, si on en croit l'avocat, ils sont arrivés sans même regretter ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire sans même prendre conscience que ce qu'ils ont fait était mal, tout simplement. Donc moi, c'est ça la plus grosse inquiétude, et je crois qu'aucune décision de justice en l'espèce ne peut leur rendre cette notion-là.
Ce que vous dites,
c'est la situation qui est vertigineuse.
L'autre n'est pas un humain, en fait. L'autre n'est pas...
Pour moi, pardonnez-moi, mais si on prendrait une personne fragile, quel que soit l'âge, qu'on soit mineur ou majeur, ça doit être, dans tous les cas, un cas de circonstances aggravantes. Et j'aimerais que ces jeunes fassent des travaux d'intérêt général, par exemple dans des EHPAD, pour se rendre compte en fait de ce que vivent certaines personnes.
Si c'est un cadeau pour
ça serait pas mal. Non mais attendez, on ne peut pas de toute manière les enfermer à vie. Ils n'ont pas tué cette femme. Imaginez qu'ils aient tué cette femme. Qu'est-ce qu'on aurait fait d'eux, en fait ?
On n'est peut-être pas passé loin de ça.
On aurait fait de la prison.
Non, mais quand j'ai posé la question des parents tout à l'heure, vous dites, est-ce qu'ils font la distinction entre le bien et le mal ? Non. Mais est-ce que les parents le font ? Mais ça, ce n'est pas, je ne sais pas si ça a été vérifié, Noémie, qu'il y a une détractation, comme l'a dit Marc, entre les parents et la victime pour pas que la procédure aille plus loin. Dans ce cas-là, on peut se demander quel est le rôle des parents. C'est ce que j'ai voulu...
Oui, et là aussi, l'esprit de la loi, encore une fois, était de mieux associer les parents aux démarches quand leur enfant est poursuivi pour des faits comme ça, notamment de violences très graves.
Au Danemark, qu'est-ce qui se passe ? Je crois que c'est baisse des allocations tout de suite pour les familles délinquantes. Danemark, dont je rappelle toujours que c'est un gouvernement social-démocrate avant quoi.
Ils ont été réunis.
Non, mais bon.
Vous avez aussi parfois des parents dépassés par.
Oui, c'est ça, bien sûr.
C'est ça, la complexité des situations. Écoutons justement l'un des avocats. Alors, est-ce que c'est l'avocat de l'adolescent, des deux avocats ? Donc, il y a l'un des adolescents qui est délinquant, qui a été relaxé.
Un de ceux qui est condamné. Mais vous allez voir, ils disent pas grand-chose, ces avocats.
On va quand même les écouter. Mais c'est intéressant. Quand on dit pas grand-chose, c'est que c'est intéressant, justement. Parfois, ça en dit long. Écoutons-les.
Voilà, aujourd'hui, on a un client qui a été relaxé. Les deux autres ont été condamnés. C'est la seule chose qui a à retenir.
Il est aujourd'hui reconnu par la justice. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Il assume les choses. Il s'en est expliqué. On reviendra.
Ils sont gênés ou c'est moi de... On a l'impression
En tout cas, pas envie de commenter la décision qui a été rendue. On rappelle d'ailleurs, ce sont des audiences qui ne sont pas publiques. Nous, en tant que spécialistes justice, la justice est rendue au nom du peuple français. Et quand ce sont des majeurs qui sont renvoyés devant la justice, on peut assister au procès. Ça n'est pas le cas pour les personnes mineures. Et donc, dès lors, peut-être que ces avocats estiment qu'ils n'ont pas de raison particulièrement de répondre.
On dit mineur, adolescent. Alors, quand on fait la comparaison il y a, je sais pas, 30, 40 ans, est-ce qu'on parle des mêmes mineurs ? Parce que mineur, le mot mineur... D'ailleurs, regardez, depuis tout à l'heure, je vous écoute, on dit jeune, on dit adolescent, on dit mineur, et rarement vous avez dit adolescent, délinquant. Ce sont d'abord des délinquants avant d'être des jeunes, ou avant d'être des mineurs.
Progressivement, que le mineur d'aujourd'hui n'est pas le même qu'en 1900, si vous voulez.
Ça, c'est sûr.
Et probablement que la société a évolué et que leur attitude absolument inhumaine est aussi un des symboles, un des étendards de la décivilisation, du processus long et périlleux de décivilisation que vit notre pays depuis quelques années. Donc on ne peut pas juger et réfléchir aux choses de la même façon qu'on l'a fait lorsqu'on a établi cela. Donc ça donne lieu effectivement à une réflexion sur les peines qu'on peut mettre en place, sur la prévention qu'on peut faire, sur l'éducation. Mais en tout cas, on ne peut pas considérer les choses avec les yeux du passé, me semble-t-il, sur ce sujet.
Il y a un exemple qui est très intéressant, c'était le procès de l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais. Il y a eu des témoignages et notamment des gens qui ont vu des jeunes donc pris au hasard. C'est-à-dire que c'est des jeunes croisés vraiment au hasard. C'est un panel parfaitement représentatif parce que le camion n'a pas prévenu à l'avance où il allait frapper. Des jeunes qui ont été vus en train de filmer les corps, en train de rigoler, en train de dire, vous voyez de quoi on est capable. C'est des jeunes pris au hasard. Et ces gens parlaient justement des mineurs d'il y a 100 ans et des mineurs d'aujourd'hui. Quel mineur il y a 100 ans était capable de voir des hommes, des femmes et des enfants écrasés sur un trottoir et de rire, et de les prendre en photo et de rigoler ?
Mais je pense qu'il y a une altération forte du rapport au réel. J'excuse personne en disant cela, mais je crois qu'il y a une altération forte du rapport au réel depuis les réseaux sociaux, depuis toutes ces choses-là. Il y a des actes aujourd'hui qui se font juste pour être postés sur les réseaux sociaux, ce qui nous paraît incroyable. Moi, je pense qu'il y a 30 ans, les jeunes de 14 ans étaient peut-être moins délinquants, mais ils étaient beaucoup plus matures. Parce que pour moi, ce qui caractérise ça, c'est une forme de manque d'empathie évident, vous le disiez, mais aussi une immaturité totale. Quand on n'est pas capable de se rendre compte, et là, il y a quand même une responsabilité de l'éducation. Alors, je veux bien qu'il y ait des parents qui soient dépassés.
Vous n'allez pas me dire que l'école est responsable alors que l'école instruit.
Non, les parents, des parents, là.
Ah, oui.
Non, pour moi, l'école, c'est l'instruction. Les parents, c'est l'éducation. Non, mais au-delà de l'éducation physique, la simple notion de bien et de mal, c'est pas de l'éducation civique, c'est simplement être capable de distinguer lorsqu'on fait un. Comment ?
Ça s'appelle la culture. On ne la transmet plus.
Ça s'appelle la morale.
C'est la question de l'excuse de minorité. Elle revient régulièrement. Faut-il lever l'excuse de minorité ? Quand on pose la question aux spécialistes, à des avocats, à des magistrats, pour comprendre l'esprit de la loi, ce qu'on nous explique, c'est qu'il y a l'idée qu'un mineur ne raisonne pas encore comme un adulte. D'ailleurs, le cerveau humain continue de se développer jusqu'à 25, voire 30 ans. On présume donc qu'un mineur...
Je ne suis pas encore tout à fait...
Attendez, je vous indique juste les éléments, ce qui est pris en compte, et après vous pourrez... le commenter, un mineur ne mesure pas comme un adulte les conséquences de son acte, qu'il n'a pas forcément la capacité d'appréciation de la gravité de la transgression. Encore une fois, je ne vous dis pas là, dans ce cas précis où ils s'en sont pris à une vieille femme et où ça ça paraît compliqué de pas se rendre compte de la gravité de la transgression. Et puis il y a aussi le raisonnement qui consiste à dire que mettre un adolescent en prison, c'est aussi prendre le risque à terme d'augmenter la criminalité, puisque le jeune risque de sortir encore plus désociabilisé, encore plus dangereux, et donc
comme
les
on n'a pas de place,
et que
dire,
les alternatives aux peines d'emprisonnement sont donc à privilégier. C'est tout ça qu'il y a derrière cette excuse de minorité.
Non mais humainement, l'idéologie, c'est de se dire que ces jeunes n'arrivent pas à projeter que cette personne aurait pu être leur mère ou leur grand-mère. C'est ça qui est dingue. En fait.
Mais c'est ça qui est intéressant. Pourquoi ?
C'est le cas de tous les délinquants. Hein, c'est le cas de tout homme qui viole une femme. Il n'imagine pas que c'est sa fille, il n'imagine pas que c'est sa mère.
Mais là, pour les mineurs.
C'est le cas de tout criminel. Hein.
Et là où je vous rejoins, c'est le poids des réseaux sociaux et des nouvelles technologies chez certains qui en font quelque chose de ludique.
Ou le poids de l'ensauvagement. Parce que là, franchement. Bon, il n'y a pas de comparaison ni de hiérarchie à avoir, mais une telle femme, dans une telle situation, ne peut pas avoir un gramme d'humanité, de
civilité. 99% des jeunes ont accès aux réseaux sociaux, donc en fait, il devrait, ça dépend du coup beaucoup plus de l'origine sociale, de l'éducation reçue que des réseaux sociaux.
Bon comme du mauvais. Hein.
Non, mais je sais bien, j'ai bien deviné ce que vous vouliez dire, mais le problème, c'est qu'on sort tout de suite les réseaux sociaux. En disant c'est l'explication, on va pondre des lois pour limiter Twitter, pour limiter les incitations à la haine sur les réseaux sociaux, en se disant qu'on va résoudre le problème de l'ensauvagement. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. On a aujourd'hui une justice qui veut toujours chercher des raisons, qui va toujours se planquer derrière, vous comprenez, incarcérer les gens, ça risque de les désociabiliser et donc d'augmenter les risques de récidive. Mais derrière, on est en face à une société qui est tellement ensauvagée, où il y a tellement plus d'empathie et tellement plus de sauvagerie, qu'on a un système judiciaire qui, en fait, se retrouve, c'est l'idéologie qui se prend le mur de réalité. De la réalité en pleine face, en réalité.
Vous avez écrit un livre qui en veut aux catholiques.
Eh bien, justement, on va en parler.
Je devrais devenir journaliste.
Oui, écoutez, vous êtes avocat, ça mène
très
à tout.
Ça mène loin. Mais la question, que nous a enseigné le catholicisme ? Il nous a enseigné l'humanité. C'est ça, la leçon première du catholicisme. La vraie problématique aujourd'hui, c'est qu'on a abandonné toute spiritualité dans notre société pour créer des êtres de consommation. Et on les a vidés de substances.
Venez à ma place.
Notamment.
C'est parfait.
C'est très beau.
Merci Noémie Schultz. Non, mais c'est important. Il y a le débat qu'on peut avoir et il y a les précisions et l'évolution de la justice. C'est important aussi de savoir de quoi nous parlons et vous le permettez magnifiquement à chaque fois. Merci Noémie. Une courte pause. Votre livre à l'honneur, Marc Hainaut, qui en veut aux catholiques, aux éditions Arthège. À tout de suite. La suite de Midi News, un livre, un constat, une question dans quelques instants. Qui en veut aux catholiques ? Nous sommes avec son auteur, on va largement en parler, mais tout d'abord les titres, c'est CNews Info avec Audrey Berthaud.
Les appels d'urgence pourraient être impactés cet hiver. Le gouvernement le répète depuis des mois. Des coupures de courant sont susceptibles d'arriver, mais leur impact pourrait s'avérer plus dramatique que prévu. La directrice générale d'Orange a prévenu que le réseau mobile français pourrait subir également des coupures. La France va affréter 2 navires supplémentaires dans la Manche. Ils seront destinés à effectuer des opérations de sauvetage de migrants. Elisabeth Borne veut renforcer le dispositif ces prochaines semaines, alors que le nombre de traversées a battu des records cette année. Dans un deuxième temps, des drones aériens permettront d'appréhender en temps réel les tentatives de traversée. Guerre en Ukraine, réchauffement climatique ou encore famine en Afrique, les besoins humanitaires n'ont jamais été aussi élevés. Pour y subvenir, l'ONU a besoin de 49,6 milliards d'euros. C'est un record. L'ONU lance donc un appel pour l'aide humanitaire cette année.
Merci à vous, Audrey. Marc Hainaut, vous êtes donc l'auteur de ce livre « Qui en veut aux catholiques ?» aux éditions Arthège, Incendie, Profanation. Ces faits qu'on ne veut pas voir. Et je vous disais juste avant qu'on en parle, quand on lit la presse, ça nous arrive, je le fais souvent, la presse régionale, locale, on peut relever régulièrement vraiment nombre de profanations, d'actes antichrétiens qui sont recensés, racontés avec détail et qui sont rarement rapportés dans les médias nationaux. Comment vous expliquez, d'abord, est-ce que vous le constatez ? Comment vous expliquez cette distorsion ?
Mais ça perce rarement, malheureusement, l'écran de la presse nationale et c'est bien dommage. Après, l'idée de ce livre, en fait, elle est un peu venue de là, justement. Enfin, moi, j'ai commencé dans la presse locale et là où je travaillais, ça arrivait de temps en temps et ça avait commencé à m'interpeller un petit peu. Et puis, à force de consulter, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même beaucoup. J'ai hésité à écrire ce livre parce que je voulais pas écrire un espèce de chapelet de complaintes en disant que que les catholiques étaient martyrisés, dont je suis d'ailleurs, les catholiques étaient martyrisés dans ce pays, etc. Mais en fait, quand on met tous ces faits mis bout à bout, parce qu'il y a les profanations, les incendies, ça c'est les choses visibles, il y a aussi tout le combat politique et culturel qu'il y a derrière, qu'il faut surtout pas sous-estimer. Quand on prend tous ces faits bout à bout, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, il y a en réalité un vrai sujet. On est vraiment hors du fait divers à proprement parler. On est vraiment dans un fait totalement structurel, en fait.
Mais quand vous dites vrai sujet, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un mouvement de fond qui montre une multiplication de tels actes antichrétiens?
Dans tous les cas, dans la société française, il y a une espèce d'intersectionnalité de lutte pour enlever l'Église du centre du village. En réalité, il y a un petit peu de ça, et on s'aperçoit très rapidement que derrière ces faits d'attaque, de profanation, alors il n'y a pas de portrait type, de portrait robot du profanateur, c'est souvent plein de raisons diverses. Et moi, ce qui m'avait frappé très récemment dans l'actualité, c'était ce jeune TikToker Benjamin Ledy qui s'était filmé en train de twerker dans une église. Premier réflexe, évidemment, c'est de penser pique-pendre de cette personne. Mais en fait, en y réfléchissant, on se dit, mais en fait, il y a aussi une espèce de symptôme de l'époque, parce que ce jeune homme, ce Benjamin Ledy, c'est un TikToker, si on suit son histoire, je crois qu'il est passé par le Refuge, donc cette association qui recueille les jeunes homosexuels, enfin, il a une vie assez brisée, et je pense qu'en fait, il est arrivé dans cette église, il a dû vaguement entendre pas dire que l'église catholique était homophobe, réactionnaire, etc., et il a fait ça. Mais on se dit, mais comment lui en vouloir? Quand on voit que des chroniqueurs sur des matinales font des sketchs absolument immondes sur des catholiques, des journalistes catholiques comme Charlotte Dornelas sur des incendies de cathédrales, quand on voit qu'une fémène qui se produit seins nus à la Madeleine en brandissant un foie de veau pour signifier un avortement en pleine messe et que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné le fait que la France l'ait condamné, je veux dire, tous ces signaux, en réalité, qui sont envoyés par l'opinion, ils encouragent, ils incitent presque à commettre de tels actes, en tout cas d'avoir ce point de vue très négatif sur l'Église qui peut conduire à des faits d'incendie et de profanation. Donc ces faits sont intrinsèquement liés, en réalité.
Est-ce que ces signaux s'inscrivent dans des thèses ou un modèle progressiste qui sera en opposition avec un modèle ou un monde où le sacré a encore sa place, la spiritualité? Parce que dans les thèses progressistes, parfois, on moque bien les rites, la liturgie, les croyances, on trouve que c'est ringard, dépassé, que ça sent un petit peu l'ancien monde.
Je crois que c'était Pierre Manant qui disait dans le Figaro qu'il n'y avait plus grand-chose à profaner dans ce pays parce qu'il n'y avait plus grand-chose de sacré. Effectivement, les dernières choses un petit peu sacrées qui existent dans ce pays, ce sont les églises catholiques et qu'en plus, elles sont extrêmement nombreuses. Je veux dire, c'est tout le paradoxe français en réalité. Pourquoi est-ce que ce sont les églises catholiques qui sont beaucoup plus attaquées que les mosquées ou les synagogues? Parce que dans une période de déconstruction, dans une période où finalement on a une société qui a honte de l'endroit d'où elle vient, qui a honte de son histoire et de ses racines, eh bien le christianisme, le catholicisme est peut-être tellement imbriqué dans cette histoire qu'en fait, en rejetant notre histoire, notre héritage et notre patrimoine, eh bien, on rejette la foi catholique, la religion catholique, puisque ces deux parties sont intrinsèquement liées. C'est d'ailleurs ça qui est paradoxal. On a pendant des années, les laïcs ont tout fait pour séparer ces deux notions. Et aujourd'hui, leurs enfants, leurs petits-enfants veulent carrément supprimer les deux notions. Donc finalement, il y a presque un effet de retour de boomerang, de retour de flamme. Et c'est très mauvais perdant.
Vous dites honte de ses racines. C'est vrai que le débat sur les racines chrétiennes, sur l'identité chrétienne, c'est un débat interdit en France. Tabou. Vous en parlez, ça brûle.
Il n'y a même pas de débat, en fait, parce que c'est le cas en réalité.
Mais je pense que moi, je suis pour que la mairie soit au centre du village. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas renier ce qui a existé.
Il ne faut pas en détruire l'église pour autant. C'est
tout à fait. Mais quand vous dites leurs enfants aujourd'hui, non. Moi, je pense que c'est normal qu'on ait voulu séparer, parce qu'il ne faut pas tout confondre, je pense. C'est normal qu'on ait voulu séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux. C'est une bonne chose. D'ailleurs, on le voit bien dans les pays où ça n'est pas fait, que ça pose quand même certains problèmes. Donc ça, moi, je ne le remets absolument pas en question. Maintenant, tout ce qui consiste à vouloir dire ça ne doit plus exister, cet extrémisme qui n'est même pas de la radicalité, qui est un extrémisme qui voudrait voir disparaître tout ça, je trouve ça totalement ridicule et irresponsable. Mais je veux bien faire la distinction. Qui veut comment est le titre, qui veut tuer
les catholiques?
Voilà, moi j'en veux pas aux catholiques. Moi je viens d'une famille d'ailleurs immigrée italienne où le père votait communiste et la mère allait à l'église. J'étais enfant de cœur jusqu'à 14 ans. On savait parfaitement marier. On savait parfaitement marier toutes ces choses-là sans que ça pose aucun problème en réalité. Et aujourd'hui on voit effectivement des extrémismes aussi de ce point de vue-là. Mais l'église a aussi ses extrémistes, ne l'oublions pas.
Non mais l'église, je sais pas si elle est surtout l'ombre d'elle-même. C'est ce que vous écrivez d'ailleurs. Et je me demande pourquoi le clergé, il est lui-même, je vais dire, anesthésié, il est tétanisé. Pourquoi?
Il y a un début de réponse chez monsieur déjà, parce qu'on est dans une société qui est de moins en moins christianisée. On est, On est passé, en fait, il y a une dichotomie très violente entre la jeune génération catholique et les évêques, en réalité, puisque les évêques, je pense, ça c'est une analyse personnelle, se croient encore majoritaires, si vous voulez. Ils ont encore, en tout cas, un réflexe d'être majoritaire et ils sont face à une jeune génération. On l'a vu au moment du confinement d'ailleurs, lorsque, alors c'est pour la société civile, ça ne veut rien dire évidemment, mais pour les catholiques, lorsqu'on explique aux prêtres catholiques, eh bien, ce qu'ils font, c'est-à-dire la distribution des sacrements, est un commerce non essentiel. Enfin, dans l'esprit d'un catholique, dans l'esprit d'un croyant, c'est absolument traumatisant. Les catholiques, ils ne demandent pas du tout à ce que la société laïque respecte ça et soit d'accord avec eux, mais qu'en tout cas, au moins, les évêques reconnaissent ça, parce que les évêques devraient être les premiers. Et les évêques ont très vite pris le parti du pouvoir contre leurs propres ouailles, et ça a provoqué une dichotomie absolument monstrueuse. Vous avez une jeunesse, si vous voulez, qui est minoritaire dans son propre pays, qui se sait, qui est grand et qui a grandi en étant minoritaire, en le sachant. Donc, elle a une foi qui est beaucoup plus offensive, une foi qui est beaucoup plus affirmée, proclamée que leurs aînés qui, eux, au contraire, on leur expliquait pendant des années qu'il fallait la cacher, que c'était dans le domaine du privé. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais c'est juste le cas. Et vous voyez, là, sur l'actualité catholique, en fait, c'est une phrase que j'ai souvent utilisée, mais pour reprendre Léon Blois, c'est une jeunesse qui demande les Cosaques et le Saint-Esprit. On leur offre un synode sur la synodalité, si vous voulez. Donc, c'est toute la difficulté de l'Église.
Mais d'ailleurs, on parlera des responsabilités ou pas de Concile Vatican II. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout cela, Maxime Thiébaud?
En fait, on est dans une exacerbation de l'individualisme dans notre société qui est l'opposé du sacré. Et donc tout ce qui représente le sacré, c'est-à-dire le fait que nous sommes que temporels sur cette planète et qu'un jour on va mourir et que peut-être il existera quelque chose après, eh bien doit être détruit. Et vous avez en fait un nihilisme complet chez une partie de la jeunesse qui, étant en absence complète de repères, a peur des repères et préfère les détruire. Et c'est ce qu'on a retrouvé chez ce jeune TikToker dans cette église où finalement il s'est attaqué à ce qu'il ne connaissait pas et ce qui lui faisait peur.
C'est quand même assez étrange d'avoir peur des repères dans un monde qui en manque.
Mais les gens ont peur de la mort. Notre société
a
peur de la mort.
Mais c'est, d'autant c'est plus, que, ça devrait oui. nous encourager à avoir des repères, à en chercher.
C'est là où l'Église est peut-être absente. C'est-à-dire qu'elle se perd parfois dans des sujets sociétaux, là où elle devait être présente dans l'espérance. Et si elle était plus présente dans l'espérance, je pense qu'elle parviendrait à convaincre davantage de personnes. C'est une vraie question qui a à se poser.
Une des difficultés, je pense, juste très court, mais une des difficultés, c'est que la parole sacrée, par nature, ne doit pas varier. C'est-à-dire que malgré le temps qui passe, malgré tout ce qui se transforme autour de nous, cette parole-là ne doit pas bouger. Donc c'est une vraie difficulté aujourd'hui où tout doit bouger sans cesse, où justement être moderne, c'est accepter tous les changements. Tout.
C'est quoi et la permanence est...
oui, mais c'est normal. Mais moi, je ne suis pas étonné que le pape soit contre certaines choses, même si je ne suis pas d'accord avec le pape, je ne lui en veux pas de continuer de penser, de penser ce qu'il pense. Voilà, c'est qu'on a de moins en moins... On accepte de moins en moins cette permanence-là, justement.
Et je pense que la permanence, vous avez tout à fait raison, Frédéric, fait partie et consubstantielle, à mon avis, du déclin du catholicisme aujourd'hui. C'est-à-dire que le catholicisme, selon moi, gêne, empêche la marche du nouveau monde. Et ce nouveau monde mondialisé, individualiste, déspiritualisé, décivilisé, dans lequel les êtres sont interchangeables. L'enveloppe corporelle n'est plus qu'une enveloppe qu'on peut changer via le transhumanisme, la chirurgie esthétique ou autre, dans lequel les frontières n'ont plus de sens, les nations n'ont plus de sens, les religions individuellement n'ont plus de sens non plus. Eh bien, dans ce grand tout mondialisé qui est en train de se dresser, de fait, le catholicisme est un obstacle. C'est la raison pour laquelle il est mis à mal depuis plusieurs décennies. Le catholicisme est un obstacle. Le catholicisme est un obstacle, mais comme j'aurais pu dire, jadis, l'URSS, le communisme était un obstacle à la marche du monde capitaliste. Comme la France, comme le gaullisme, même
vous savez, le patriotisme pourrait être un obstacle.
Tous les grands symboles et tout ce qui peut transcender notre monde au plan spirituel.
Moi, ce qui m'intéresse,
Paul, juste le capitalisme paternaliste s'accommodait très bien du catholicisme. C'est ce nouveau capitalisme-là, néolibéral, sans-frontiériste, qui sûr. Ne s'accommode plus. Parce que pendant des années, capitalisme et catholicisme ont marché main à la main. Mais aujourd'hui,
c'est... Il faut aller plus loin. Pourquoi? Oui. Parce que ce qu'il veut, c'est d'avoir un homme nu, sans racines, des racines.
Absolument.
Absolument.
Qui, à mon avis,
plus malléable.
On dit que quand la société produit de l'insupportable, elle doit en même temps produire des hommes capables de supporter
les supportables. Responsabilité. Pardonnez-moi, quand vous avez beaucoup de politiques qui passent leur temps à fustiger et à se moquer, comme vous le disiez, Marc, sur certaines autres antennes médias du catholicisme ou des chrétiens d'Orient, ça n'aide pas aussi à parler
et eux, ils sont les fantassins de
et à parler de ce que vivent certains catholiques. Vous savez que l'on soit croyant ou pratiquant, moi je ne suis ni croyante ni pratiquante. Donc je prends de la distance avec ce que vous expliquez, mais je respecte la foi, les croyances et les convictions de chacun. On peut avoir une spiritualité lorsqu'on n'est pas croyant. Et on peut respecter l'autre. Et d'ailleurs, ça se fait souvent. On n'a pas besoin d'être catholique, d'être juif, d'être musulman pour ça. Mais c'est vrai que moi je suis toujours choquée quand on prend une cible facile, comme les catholiques ou les chrétiens en règle générale, par rapport à d'autres communautés comme la communauté musulmane. Il faut toujours la protéger, la communauté musulmane. Et je ne suis évidemment pas pour l'attaquer ou la fustiger, mais de la part de certains, vu de leur prisme, on a l'impression en fait qu'il y a un décalage. Et vous le disiez. Oui, pardon. Et vous, juste pour terminer, et vous le disiez, Sonia, c'est quand même sidérant dans cette société qu'il y ait un décalage parfois entre le sacré et la croyance. Pourquoi se moquer, en fait, de celui qui croit au profit de celui qui ne croit pas aussi ?
Alors, en fait, il y a aussi, donc on pourrait revenir très longuement sur la loi séparatisme qui a été une vaste pantalonnade, puisque, à la base, je rappelle, c'était quand même censé lutter contre le séparatisme islamiste. Après, ça a été renommé loi réaffirmant les principes de la République. Ce qui fait qu'au lieu de condamner le séparatisme islamiste, la République a cédé un peu à ses vieux penchants de 1905 en réinstaurant la supériorité de la République contre l'ensemble des cultes. Et au lieu de dire nous sommes une République, nous sommes une civilisation judéo-chrétienne, nous sommes une République, nous sommes la République et tous les cultes sont opposés à nous. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont renvoyé, si vous voulez, les chrétiens et les catholiques qui ont quand même construit ce pays, excusez du peu, avec les adversaires séparatistes. On l'a vu d'ailleurs sur les débats sur l'école à la maison. Je veux dire, ça a été supprimé du jour au lendemain au nom d'une poignée d'écoles coraniques, mais il y a aujourd'hui des familles qui ne peuvent plus élever leurs enfants à la maison. Moi, j'ai discuté avec l'une d'entre elles qui m'a dit, du jour au lendemain, elle a 5 ou 6 enfants, et elle alternait école à la maison, école en scolarité normale, etc. Et elle m'a dit, moi, du jour au lendemain, on m'a dit qu'on m'a soupçonné de séparatisme, en fait. Et pour anecdote, cette femme, son fils aîné est mort pour la France en portant l'uniforme de l'armée française. Enfin, il y a eu une espèce d'amalgame, de gloubi-boulga général où on devait débattre finalement du voile des petites filles. On a parlé des voiles de communion, des serre-têtes et du consentement de l'enfant lorsqu'il est baptisé.
Là, c'était les islamistes qui étaient visés et par peur de stigmatiser, dit-on. Ça m'intéresse le Concile Vatican II. Est-ce que pour vous, il a participé de ce délitement général que vous décrivez ou est-ce que c'est trop facile de tout mettre sur le dos, parce que c'est souvent le débat.
Là, j'arrive à une difficulté, c'est que les tradis me trouvent trop progressistes, et les progressistes me trouvent trop tradis sur ce sujet. En fait, le Concile Vatican II, j'en ferai pas le début du déclin. Le Concile Vatican II, il a été fait pour répondre à un déclin qui existait déjà. Le problème étant, c'est quand le Concile Vatican II a été lancé, il y a eu effectivement un espèce de vent. Comme à chaque fois qu'il y a un grand vent de nouveautés, si vous voulez, il y a eu des délires absolument complets qui ont été faits de tous côtés. Et le Concile Vatican II, force est de constater que justement, en rejetant un petit peu tout ce qui est patrimoine matériel, tout ce qui est procession, tout ce qui est signe visible, eh bien, en fait, il a perdu la piété populaire. Il y avait ce grand auteur qui s'appelle Maurice Clavel, pour répondre aussi un petit peu sur ceux qui accusent l'Église d'être hors du monde. Maurice Clavel, il avait dit aux catholiques, vous aviez tellement peur d'être les derniers des catholiques que vous serez en réalité les derniers marxistes. Et il y a eu ces excès-là. Non, mais c'est un petit peu provoquant. Évidemment, tous les catholiques conciliaires ne sont pas des marxistes. J'en suis un, donc. Et je suis absolument pas marxiste. Mais c'est vrai qu'il y a eu ces excès-là. Il y a eu cette confusion à un moment donné de l'universalisme chrétien qui se doit d'être enraciné et la mondialisation, si vous voulez. Et à chaque fois que l'Église a épousé les thèmes de la modernité et a abaissé, entre guillemets, sa transcendance pour correspondre à l'époque, eh bien, elle en est sortie encore plus affaiblie qu'avant.
Mais oui, pourquoi je parlais des thèses progressistes ? Parce que, l'idée, c'est d'oublier la verticalité en réalité. C'est qu'il n'y ait plus de verticalité dans notre société. Et ça, c'est...
Sauf qu'on ne peut pas poser un principe sans verticalité. Parce que c'est la caverne de Platon. C'est-à-dire qu'à un moment, les philosophes sortent, voient la lumière et retournent dans la caverne pour inculquer aux autres le savoir qu'ils ont reçu et pouvoir les sortir à leur tour de la caverne. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on part du principe que celui qui sort de la caverne serait supérieur aux autres et ne doit plus être entendu. Donc, on doit tous être dans la caverne à penser que l'extérieur de la caverne est mieux. Donc, finalement, on s'engouffre vers un nouvel ensauvagement, une décivilisation. Paul Melun en parle mieux que moi, mais c'est ça la vraie question. C'est comment on arrive aujourd'hui à laïciser la spiritualité. Parce que c'était l'objectif des républicains lorsque la loi de 1905 a été votée. C'était comment on tire des règles universalistes de l'humanité du christianisme des leçons républicaines et laïques. Et on a complètement abandonné, on a aseptisé, on a vidé de sa substance notre république. C'est vraiment triste.
On voit beaucoup d'images d'églises là à l'écran. On a beaucoup parlé à un moment, c'était un débat sur le nombre des églises en France. Il y avait eu un débat, est-ce que finalement il y en a moins qu'avant, etc. C'est toujours compliqué. Et d'ailleurs, je pense...
Il y a des églises qui sont encore construites aujourd'hui, oui. En France.
Oui, oui, quelques-unes. Mais vous savez, il y a aussi un débat, parce que je pense à un livre, en regardant Paul Molins, parce que vous travaillez souvent avec Michel Onfray sur les ruines. Il avait, je crois, consacré un livre sur les églises en ruines, qui aussi concentrent dans leurs pierres beaucoup de spiritualité et de sacré. Sûr. Parce que la ruine peut être aussi, peut incarner ou porter...
La dimension sacrée, moi je vois en Deux-Sèvres, près de chez moi, il y a une petite chapelle du Xe siècle, 955 après Jésus-Christ, qui est un antique sanctuaire qui forme comme une pomme de pin en pierre. Je peux vous dire que moi, je suis plutôt agnostique, donc je ne suis pas forcément la cible, disons. Mais lorsque vous vous rendez là, il y a un petit cimetière autour. Vous êtes au milieu des champs, vous recevez la pesanteur, vous recevez la puissance tellurique du lieu. Et ça, si vous voulez, c'est cruellement ce qui manque à notre société aujourd'hui. C'est qu'on a remplacé ça, finalement, par le grand supermarché, par les tapis roulants, par les aéroports qui ne ferment jamais, par les places boursières, par la salle de fitness qui se charge de votre enveloppe corporelle, mais pas de votre âme.
C'est le culte de soi, surtout.
Vous avez des salles de fitness dans des églises maintenant, donc... Les églises réaffectées.
Non, mais regardez, aujourd'hui, c'est vrai que vous voyez dans plein de la France périphérique que décrit très bien Guy Lui, on voit très bien qu'un curé doit faire trois églises, par exemple. Moi, quand j'étais petit, on était dans un village de 600 habitants, il y avait son curé. Ouais. Voilà. Et donc, tout ça se passe aussi parce que les gens ne pratiquent plus. Je veux dire, c'est la première chose. Sinon, évidemment, qu'on aurait encore plus d'églises, etc. Mais il y a un vrai problème, effectivement, à mon avis, à marier la foi, bien qu'il y ait une aspiration, un retour à quelque chose de sacré. Ça, c'est une évidence. Les gens, ils ne peuvent pas vivre que de consumérisme, ils ne peuvent pas vivre que de matériel.
Ah, on leur a dit,
c'est ce qu'on leur a fait croire. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au frigidaire ou à la machine à laver qu'on pouvait construire pour qu'elle dure 20 ans.
Gens dormaient
non, voilà. Les gens ont quand même plus, besoin de trouver du sens à leur vie. Malgré tout, je trouve que c'est assez paradoxal. Parce que certes, il y a une crise aussi des vocations dans le catholicisme, mais vous avez énormément de personnes qui se retrouvent en communauté religieuse. La France n'a jamais été
de plus en plus
autant fracturée à ce niveau.
Il y a encore des jeunes de 20 ans nés dans les années fin des années 90 qui rentrent dans des monastères bénédictins et qui passent leur vie entière. Donc paradoxalement, c'est ce que je me dis un petit peu. Je me dis en fait la France ne sera plus catholique le jour où il y aura plus un seul monastère avec des gens dedans qui.
Mais si on est obligé de se retirer pour avoir la foi, c'est dommage.
La pédocriminalité, évidemment que cela aussi altère la perception.
Mais il n'y a pas de pire ennemi qu'un traître en réalité. Voilà. Mais qui en veut aux catholiques, effectivement, il y a l'Église a elle-même abrité, couvert des affaires criminelles d'une gravité absolument accablante. Et ce livre en parle aussi. D'ailleurs, il en parle comme une attaque comme les autres, voire même pire en réalité.
Vous dites,
de l'intérieur.
Oui, de l'intérieur. Oui.
Mais la spiritualité, la horreur du vide. Et le problème, vous soulevez une question très juste sur la question de la spiritualité des gens qui se retrouvent en petite communauté, mais on a aussi une augmentation des sectes, on a une augmentation des gourous en France, avec des gens qui viennent combler ce vide-là. Et la place qu'avait l'Église, ou que devait avoir la République, d'éviter finalement que les gens tombent dans les mains de ces gourous et de ces sectes, elle est un petit peu laissée à l'abandon. Et je pense qu'il y a une nécessité...
C'était l'intuition de Napoléon, d'ailleurs, au moment du Concordat, en fait.
Veut aux catholiques, un peu eux-mêmes de ne pas affirmer, dans le cadre et le respect de notre laïcité, mais d'affirmer quand même leur foi. Est-ce qu'il y a une forme de honte, de retenue comme ça?
Non, pas forcément. Alors je pense que dans les jeunes générations, c'est de moins en moins vrai. Après, c'est toujours le principe, comme il va y avoir de moins en moins de pratiquants. Je veux dire, aujourd'hui, être catholique, c'est dans quelques années, ce sera peut-être être hors la loi d'ailleurs, puisqu'on voit des menaces qui pèsent sur le secret de la confession, même sur les questions liées à la bioéthique, à l'IVG, au mariage homosexuel, à ce que vous voulez. Il y a un moment donné où, de toute façon, l'anthropologie, il ne faut pas voir ça d'ailleurs comme des interdits moraux ou comme un carcan moral. En réalité, c'est une cohérence anthropologique. L'Église, en fait, est toujours sur le même et à la même vision de l'anthropologie depuis des siècles. Et en réalité, elle ne va pas s'adapter à ça. Mais il y a effectivement ce risque et ce fait que les catholiques, ont du mal. Ils sont tellement attaqués. Je veux dire, je pensais un exemple bête. Combini faisait un article sur les certificats de virginité. Il me semble que c'était ça, et ils l'ont illustré avec une image de la Vierge Marie, gratuitement, comme ça, enfin, sans raison. Il y a des islamistes qui manifestent pour le retrait d'une œuvre, tel article va illustrer ça avec une procession catholique des années 70.
Donc, tout ça participe pour vous à...
En tout cas, la société envoie quand même énormément de messages pour dire aux catholiques, une partie de la société évidemment, mais je pense qu'au niveau médiatique, au niveau culturel, c'est quand même assez majoritaire, on leur envoie quand même un message depuis des années qui est de dire merci, au revoir.
Enfin, vous voyez, vous pouvez en parler, en tous les cas, et le dire. Et c'est, mais il est très, très, il est très bien fait, le livre, parce qu'il est aussi, il y a des faits, il y a tout ce qui se passe, il y a l'analyse, et puis il y a toute l'histoire aussi, évidemment, qui en veut aux catholiques. Merci, Marc-Eno, d'avoir été
avec nous.
C'est un plaisir. Je vous remercie. Merci pour ce débat. On se retrouve bientôt. Ah oui, l'inspiration politique. Formidable interview du géographe Christophe Guilluy à retrouver. C'est le magazine de Frédéric Durand. Est-ce qu'il y a autre chose à mettre en avant? Tout va bien. Alors, amen. Merci à vous. Bon après-midi.